Europe 1.
Nous sommes le jeudi 14 mars, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une donc cette phrase, le poisson pourrit toujours par la tête, recadrage musclé du Premier ministre Gabriel Attal hier devant le conseil d'administration de Sciences Po. Le Premier ministre qui tape du poing sur la table après les dérapages antisémites dans l'établissement en début de semaine, il annonce la saisine de la justice. Dans l'actualité également, les policiers évoquent un refus d'obtempérer. Un jeune homme à scooter est mort dans une course-poursuite à Aubervilliers hier soir. France Travail également qui n'a pas su protéger vos données. Des hackers ont dérobé les adresses, numéros de téléphone et de sécurité sociale de 43 millions d'usagers. On parle de football aussi. Ça passe en demi-finale pour le Paris Saint-Germain en Coupe de France.
Europe 1.
Le journal de 7h sur Europe 1. Victor Porcher, bonjour Victor.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. La scène est inédite. Le conseil d'administration de Sciences Po Paris s'ouvre hier. Le Premier ministre débarque. Le poisson pourrit toujours par la tête, lâche-t-il, en référence aux accusations d'antisémitisme. Ce blocus d'un amphithéâtre rebaptisé Gaza mardi. Son entrée interdite à des étudiants juifs taxés de sionisme par d'autres pro-palestiniens. Et c'est le point de départ de cette visite surprise de Gabriel Attal à Arthur Delaborde.
Les Français s'interrogent très fortement sur une forme de dérive liée à une minorité agissante et dangereuse à Sciences Po. C'est selon des participants ce qu'a dit le Premier ministre aux membres du conseil d'administration de l'établissement. Il a ensuite fait trois annonces. D'abord la saisine du procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Ensuite la nomination d'un administrateur provisoire chargé de mettre en œuvre un changement de logique. Et enfin l'ajout du respect des valeurs de la République et de la liberté d'expression dans le contrat d'objectif de la future direction de Sciences Po. Cette visite surprise montre l'importance du sujet pour l'exécutif. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs évoqué hier matin au début du Conseil des ministres. C'est intolérable. Le séparatisme n'a nullement sa place dans la République. Les propos antisémites prononcés à l'endroit d'une jeune femme juive sont inacceptables, a lancé le président aux membres du gouvernement.
Arthur Delaborde pour Europe 1 et Gabriel Attal par ailleurs attendu dans un collège de Chartres cet après-midi après ses déclarations sur la laïcité à l'école, je cite, plus que jamais menacée, sur la création aussi annoncée de cellules de soutien pédagogique pour les professeurs qui subissent des résistances, dit le Premier ministre lors de leurs enseignements.
C'est l'information de la nuit, un nouveau mort lié à un refus d'obtempérer, ça s'est passé hier soir.
À Aubervilliers, au nord de Paris, la victime, un jeune homme à scooter percuté par un véhicule de police lors d'une course-poursuite. On en sait plus, Jean-Baptiste Marty.
Eh bien, les faits se sont produits peu après 19h. Deux personnes circulant à vive allure à scooter sont repérées par les policiers à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Le conducteur du deux-roues refuse de s'arrêter, s'engage alors une course-poursuite de plusieurs minutes jusqu'à cette collision avec une voiture de la BAC anticriminalité à Aubervilliers. Un choc frontal qui propulse le scooter contre un camion. Un des deux fuyards est grièvement blessé. Pris en charge par les pompiers, il décède finalement à l'hôpital aux environs de 22h. Le deuxième individu est quant à lui légèrement blessé. Il est actuellement en garde à vue selon les informations d'Europe 1. Un des policiers présents dans la voiture de la BAC est blessé à la main. Alors après ce drame, le parquet de Bobigny annonce l'ouverture de deux enquêtes. La première est confiée à la police des polices. La seconde est entre les mains du service de traitement judiciaire des accidents de la préfecture de police pour déterminer les causes de l'accident.
Les précisions de Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Vos données personnelles, certaines d'entre elles en tout cas, sont probablement ce matin entre les mains de hackers.
France Travail piraté. 43 millions d'usagers touchés, probablement vous. Leur nom, numéro de sécurité sociale, leur adresse mail, leur numéro de téléphone sont aux mains des voleurs. Et il a fallu de longs jours pour que l'ex-Pôle emploi s'en rende compte. Antonin Illy pointe des manquements des services de l'État. Il est expert en cybersécurité.
Ils n'ont pas fait le nécessaire pour protéger la donnée. Ne pas mettre au même endroit un nom et un numéro de sécurité sociale, c'est une évidence quand je le dis. Ça l'est beaucoup moins dans les faits. Quand on a dans une banque de données un nom, un prénom, un numéro de sécurité sociale, une adresse postale, on peut faire énormément de choses. Dans le dark web, un numéro de sécurité sociale vaut beaucoup plus cher qu'un numéro de carte bancaire.
Les propos recueillis par Baptiste Morin. Et si vous êtes concerné, France Travail doit vous contacter dans les prochains jours. Je vous signale également que le ministre des Comptes Publics, Thomas Cazenave, confirme confirme un record des redressements sur le travail au noir. Plus d'1,1 milliard d'euros en 2023, mais seuls 80 millions d'euros ont réellement été recouvrés.
Bon, vous écoutez Europe 1 Matin, il est 7h05.
Il a tué sa femme pour partir avec une maîtresse qui n'existait pas. C'est l'histoire tragique et à peine croyable qui s'est déroulée dans le Pas-de-Calais.
Mise en examen et placement en détention attendu pour cet homme qui a reconnu les faits. Lionel Gougelot, tombé sous le charme d'une femme sur Internet avant son acte terrible, mais derrière l'écran, c'était un escroc.
Il a suffi d'une rencontre sur Facebook, une idylle amoureuse virtuelle pour que Nicolas fasse voler en éclats le couple idéal qu'il formait avec Alicia. Le 28 janvier, le jeune homme décide de supprimer sa compagne, puis il alerte les gendarmes, mais l'explication qu'il avance, un cambriolage ayant mal tourné, ne convainc pas les enquêteurs. Nicolas avait en fait projeté de vivre son aventure amoureuse avec celle avec laquelle il avait noué une relation à distance, sauf que derrière le profil d'une jolie femme blonde se cachait en réalité un brouteur, un type d'escroc aux méthodes redoutables que Damien Bancal, expert en criminalité, connaît bien.
C'est une véritable manipulation parce que le brouteur, ce voleur, cet escroc, il va jouer vraiment sur les sentiments, il va faire croire qu'il recherche de nouvel amour, sauf qu'en face, c'est un personnage totalement inventé. Et si la personne en face, la cible, tombe dans le piège, ça peut aller très très loin, du vol d'argent, extorqué à l'amoureux transi qui espérait tant voir arriver cette belle dulcinée qui venait de leur écrire.
Nicolas avait d'ailleurs versé plus de 2000 euros à cet escroc basé en Afrique de l'Ouest, comme d'ailleurs de nombreux réseau de cyberarnaqueurs.
Le récit de Lionel Gougelot pour Europe 1. Dans l'actualité également, l'Afrique de l'Ouest, les Canaries espagnoles pour rejoindre l'Europe. C'est le trajet migratoire privilégié désormais. Plus 541% en 2023 avec 12 000 passages de migrants quand la route via la Méditerranée est en baisse de 70%. Les chiffres publiés hier dans un rapport par Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes.
Aux États-Unis maintenant, un rapport étrille la sécurité du constructeur aéronautique Boeing.
Un rapport qui fait suite aux audits ordonnés après cet incident spectaculaire. Rappelez-vous ce 737 MAX d'Alaska Airlines qui avait perdu une porte en plein vol. Et dans ce rapport, ce qui est pointé à vive Fried, ce sont les limites de la politique de sous-traitance intensive de Boeing.
Oui, depuis 20 ans, Boeing s'est débarrassé de sa production industrielle pour se concentrer sur l'assemblage qui permet de dégager de plus gros profits. L'avionneur externalise quasiment tout de la recherche et développement à la fabrication des fuselages. Ce sont des sous-traitants qui s'en chargent comme Spirit Aero, le fabricant du 737 MAX. Résultat, une supervision qui n'est pas au niveau, comme l'explique à la chaîne CBC Ed Pearson, un ancien dirigeant de Boeing devenu lanceur d'alerte.
Boeing doit recommencer à construire des avions comme il le faisait il y a de nombreuses années. Arrêter de regarder le cours de la bourse et se concentrer sur la qualité. Sinon, on va droit au désastre. L'entreprise a beau dire que les avions sont sûrs, beaucoup de preuves indiquent le contraire.
Ces preuves, on les retrouve dans le rapport de l'administration américaine. Les exemples font peur. Des ouvriers qui utilisent des cartes de chambre d'hôtel pour tester les joints de porte ou du liquide vaisselle comme lubrifiant pour les installer. Sur 13 audits chez Spirit Aero, 7 se sont conclus par des échecs. Un coup dur pour Boeing qui a déjà enregistré plusieurs annulations de commandes.
La correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Aviva Fried.
Et le football, Paris qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France.
Victoire contre Nice, 3-1 hier soir. Demi-finale, ce sera contre Rennes et forcément, le coach parisien Luis Enrique est satisfait.
Nous avons joué les 35 premières minutes du match d'une superbe manière, vraiment, d'un très haut niveau contre l'un des meilleurs adversaires en France, une équipe qui presse bien, qui défend merveilleusement bien. Nous avons fait un match très complet, nous sommes sur le bon chemin, on continue à progresser.
Et ce soir, il y a de la Ligue des Champions, il y a de la Ligue Europa, pardon, la deuxième Coupe d'Europe. Match retour des huitièmes de finale pour Marseille contre Villarreal. Il y avait de la Ligue des Champions hier soir, par contre, et c'est passé au tir au but pour l'Atlético Madrid contre l'Inter Milan et pour Dortmund qui élimine le PSV Eindhoven.
Oui, j'ai bien vu que vous preniez vos rêves pour des réalités, Marseille en Ligue des Champions. Peut-être la saison prochaine, qui sait, Victor, on ne sait pas, vous l'espérez. Bon, merci en tout cas, Victor Ponchet, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito Écho.
Près d'un cadre sur deux d'émission missionnerait si on leur supprimait le télétravail. Un 4 sur 2, ça s'est vraiment installé. On pensait que c'était un feu de paille post-Covid, pas du tout. On va en parler avec Nicolas Bouzou dans quelques instants. Juste après, l'invité actu d'Europe 1 Matin, l'étudiante Théa Ogula sera avec nous. Elle est étudiante à Sciences Po. Elle n'aime pas trop le tour que prennent les choses dans son école. À tout de suite.
7h, 9h.
Europe 1 Matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Théa Ogoula.
Bonjour Théa.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Alors, on ne vous connaît pas, mais on va apprendre. Vous êtes étudiante en théorie politique à l'école de recherche de Sciences Po Paris. On peut dire qu'en ce moment, les études sont un petit peu perturbées, rue Saint-Guillaume, par des événements qu'on qualifiera d'extrascolaires. C'est quand même suffisamment grave pour que le Premier ministre ait jugé bon hier de s'inviter, par surprise, à une réunion du conseil d'administration de l'établissement. Jamais un membre du gouvernement n'avait assisté à une telle réunion et il a eu cette phrase terrible, Gabriel Attal, « Le poisson pourrit toujours par la tête ». On comprend dans sa phrase que la tête, c'est Sciences Po. Alors Théa, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il a raison le Premier ministre? Y a-t-il quelque chose de pourri à Sciences Po?
Alors je crois que ce que le Premier ministre a voulu dire, c'est que, en tout cas moi de ce que je comprends, qu'il y a une raison, en tout cas une justification à voir une partie de la société française remettre en question les grandes écoles de type Sciences Po, et notamment Sciences Po qui a cette prétention plutôt vérifiée de former les élites politiques, si on a Sciences Po est le théâtre de tels scandales, et donc que l'exemplarité qui de toute façon doit s'appliquer à chaque individu au sein de la société doit s'appliquer d'autant plus à Sciences Po.
Alors, le scandale, en l'occurrence, je le rappelle hein, pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, c'est cette occupation par un groupe d'étudiants pro-Palestine mardi, étudiants qui voulaient en fait dénoncer le silence de la direction de Sciences Po à propos de ce qui se passe en ce moment à Gaza et en Israël. Et donc cette interdiction qui aurait été faite à une étudiante d'entrer, toi tu ne rentres pas parce que tu es sioniste. Vous avez pris la plume, Théa, avec trois autres étudiants de Sciences Po pour dénoncer ces faits. Ça vous a scandalisé ce qui s'est passé mardi?
Oui, c'est absolument intolérable et inadmissible que de tels mots soient prononcés, que ce soit au sein de notre école ou partout ailleurs. On s'est senti légitime de prendre la parole parce que Sciences Po est entre autres notre école.
Mais vous êtes quatre signataires de cette tribune qui est publiée par Le Figaro. Vous êtes quatre et vous êtes minoritaire à penser ça, Théa?
C'est difficile à estimer, nous n'avons pas fait de sondage sur la question. Moi, j'aime à croire que il y a une majorité qui est de notre côté. Je crois que, comme l'a dit le professeur Heilbronn, dans notamment un texte qu'il a envoyé aux membres des conseils de l'Institut, il y a une minorité agissante qui est de l'ordre de la violence, ou en tout cas d'actes et de propos qui sont parfaitement inadmissibles.
Ouais. Il a dit autre chose, Gabriel Attal, hier, et en fait, il n'a pas tort. Quand on entend parler de Sciences Po, c'est pour des polémiques. Et quand on fait la liste quand même des événements récents sur les 2-3 dernières années, on se dit, Alain Finkielkraut, interdit de rentrer, d'accéder aux locaux, les tags antisémites sur le fronton de l'école il y a quelques mois. Bon, cette chasse aux sorcières qui est menée sur un plan idéologique, je pense à cette prof de danse qui a eu le malheur de refuser de rebaptiser leader et follower, hommes et femmes lors de son cours de danse, etc. etc. Il y a cette impression que Sciences Po c'est devenu un peu science woke. Théa Ogoula, bon, passerait la formule, mais enfin, vous saisissez l'idée. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans l'enseignement, dans l'ambiance qui se passe, dans l'ambiance de l'école?
Alors nous, l'une des raisons qui a fait qu'on a voulu écrire cette tribune, alors certes, c'était pour dénoncer, et c'était une raison tout à fait suffisante, les propos qui avaient été tenus, mais
c'est
c'était
l'attaque antisémite.
Voilà, l'attaque antisémite. Ouais. Effectivement, elle ne rentre pas, elle est sioniste. C'était une raison suffisante pour s'indigner,
absolument.
Effectivement. Ouais. La deuxième raison, c'était aussi de montrer une autre image de Sciences Po. Sciences Po, ce n'est pas que ça.
Oui.
Et j'ai envie de dire, ça n'est pas ça, dans le sens où ça ne doit pas être ça. Sciences Po, c'est bien d'autres choses. Sciences Po, vous l'avez dit, j'étudie en théorie politique. Sciences Po, c'est de la recherche.
C'est votre cinquième année à Sciences Po.
C'est ma cinquième année, hein. Voilà. Sciences Po, c'est la recherche. Sciences Po, c'est l'enseignement. Sciences Po, c'est un corps professoral assez exceptionnel. C'est un environnement d'études et des sujets d'études ô combien importants. Et donc, c'est bien plus que ça.
Mais vous craignez pour la réputation de votre école et puis pour votre future carrière, votre diplôme, vous craignez d'être, qu'on vous regarde de travers en disant ah, elle vient de Sciences Po, celle-là, avec tout ce qui s'y passe. Est-ce que vous craignez ça, Théa Ogoula? Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend dans les couloirs de l'école, chez les étudiants?
Alors, c'est un bruit qu'on... L'assimilation de Sciences Po à ce genre de propos et à ce genre d'événements, elle existe. Voilà, on va pas la nier. Est-ce que c'est une crainte de ma part? Je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est que nous, on a voulu montrer que Sciences Po, voilà, c'était autre chose et que ça devait être autre chose. Et que c'est ce qu'a voulu Émile Boutmy quand il a fondé Sciences Po il y a maintenant 150 ans. Il voulait former des citoyens éclairés, raisonnables, rationnels et à même de comprendre la complexité du monde, de ne pas céder au manichéisme du jugement politique.
Oui, parce que Sciences Po, il faut le rappeler, ne vit pas en vase clos. Il y a des concurrents, il y a Oxford, il y a Cambridge. La concurrence, elle est internationale. Pour l'école, peut-être la plus américanisée de France, hein, Sciences Po, il faut le rappeler, la moitié des étudiants sont étrangers.
Oui, alors américanisé, moi je reste toujours très prudente avec ce genre de parallèle, notamment vous parliez tout à l'heure de wokisme, qui est un terme qui nous vient des États-Unis.
Ah ben ça vous paraît péjoratif quand on dit américanisé, c'est quand même...
Ça ne me paraît pas péjoratif, simplement il y a un parallèle qui est fait, qui a une pertinence jusqu'à un certain point, mais je crois que ce qui se passe sur les campus américains est aussi propre aux États-Unis et à la société américaine, et ces fractures, ces contradictions qu'on ne retrouve pas.
Mais quand vous voyez
France,
ce sondage fait il y a 2 ans à Sciences Po, où l'on demande aux étudiants « Vous êtes de gauche ou vous êtes de droite ?» 71% des étudiants de Sciences Po en 2022 disent qu'ils sont de gauche. Si on prend la tranche générationnelle, la part de ceux qui se disent de gauche est plutôt de 41%. Donc il y a quand même une déformation très à gauche de l'école Sciences Po, Théa Ogula, non ?
Je crois que ça a toujours été comme ça.
Oui.
Je crois que Sciences Po a toujours été plus à gauche, ou en tout cas, ça fait 50 ans que Sciences Po est plus à gauche que la société. Je crois pas que ce soit un mal, je crois pas que Sciences Po doivent être, en tout cas, qu'il soit indispensable, que Sciences Po soit un miroir en termes d'opinion de la société. Ce que je crois, je pense que ce qui est le plus important, c'est que Sciences Po soit une enceinte où on puisse discuter de tout, et où on puisse discuter de manière posée, non violente, et surtout pas...
Mais ça n'est pas le cas. En ce moment, on a l'impression.
Alors, ça n'a pas été le cas mardi.
Oui.
Ça n'a pas été le cas mardi.
Mais lundi, ça l'était.
C'est compliqué à dire. Vous savez, c'est toujours difficile d'avoir une opinion sur l'atmosphère d'un campus quand on est 4 étudiants à l'échelle de 15 000 étudiants. C'est toujours difficile. Moi, je me suis jamais sentie censurée à Sciences Po. J'ai jamais senti le besoin de me censurer. Maintenant, est-ce qu'il y a une crispation quand on discute avec certains étudiants de Sciences Po sur certains sujets ? Oui.
Merci d'être venu témoigner au micro d'Europe 1. Théa Ogula, votre tribune, on peut la lire sur lefigaro.fr. Elle est en accès libre. Merci d'être venu à vous.
Merci
et puis bon courage pour la fin de l'année donc, qui approche à grands pas pour
vous.
Merci,
bonne journée.
Bonne journée.
Il est 7h19 sur Europe 1, l'édito éco.
7h-9h, Europe 1 matin.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa.
Bonjour Nicolas.
Alors on revient sur ce chiffre qui ressort d'une enquête de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Cette enquête nous dit, Nicolas, qu'un cadre sur deux démissionnerait. Il quitterait son emploi si on lui supprimait le télétravail.
Ouais, c'est pas rien. C'est une étude très intéressante hein, qui a 3 enseignements. La première chose, depuis le Covid, le télétravail fait partie de la vie normale des cadres. Hein. Les 2/3 d'entre eux pratiquent le télétravail au moins un jour par semaine. Deuxième enseignement, il est difficile pour les entreprises de revenir en arrière. Hein. En effet, Dimitri, vous le disiez, 45% des cadres démissionneraient si le télétravail était supprimé dans leur entreprise. Mais quand on regarde les jeunes, ce sont 60% des jeunes qui démissionneraient dans un tel cas. Troisième chose, les cadres voient bien les limites du télétravail, hein, comme le manque de travail en équipe, parfois même le risque d'être mal vu de sa hiérarchie, mais pour 70% d'entre eux, les avantages l'emportent sur les inconvénients. La conclusion de tout ça, c'est que le télétravail est devenu l'équivalent d'un acquis social, quasiment au même titre que la retraite ou les congés payés, on ne reviendra pas en arrière.
Mais alors, si une entreprise propose un poste, elle est obligée d'y inclure du télétravail ?
Écoutez, aujourd'hui, 10% des entreprises mentionnent le télétravail dans leurs offres d'emploi.
Alors là, oui, c'est relativement peu encore.
Je ne parle pas des cadres, hein, je parle de tous les emplois. En Allemagne ou au Royaume-Uni, on est à plus, hein, on est à 15%, donc on imagine que ça puisse encore progresser en France. Mais ce que j'observe, c'est une tension aujourd'hui entre les travailleurs, pour qui c'est un acquis social, et les entreprises qui veulent replier de la voile sur le sujet. Écoutez, franchement, je vois des entreprises tous les jours, plusieurs fois par jour.
C'est un vrai sujet.
Et il n'y en a pas une qui ne m'explique pas qu'on est allé trop loin en matière de télétravail et que c'est un frein pour le travail en équipe. Il y a donc un conflit hein, entre la demande forte des salariés et ce que les entreprises perçoivent comme étant leur intérêt.
Bon, alors qui a raison, il faut bien juge de paix. le télétravail, sur le plan de l'efficacité, ça
donne quoi ? A priori, c'est plutôt bon. Hein.
On
dispose d'un certain nombre d'études et ce que montrent ces travaux, c'est que les salariés, en tout cas, eux, se disent plus productifs en télétravail. Il y a une grande étude qui a été réalisée par Cisco en 2022, elle révélait que 60% des salariés français étaient plus productifs et produisaient un travail de meilleure qualité en télétravail. C'est particulièrement vrai pour les plus jeunes. Le télétravail contribue au bien-être des employés, ça réduit les temps de trajet, ça permet un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en plus de la qualité du travail. Mais je vais vous dire, Dimitri, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et qu'on aime le télétravail ou pas, c'est aux entreprises d'adapter leur management et leur façon d'évaluer les collaborateurs à cette évolution qui est gravée dans le marbre.
La signature Nicolas Bouzou qui est en présentiel dans le studio d'Europe 1 ce jour.
Absolument.
Merci beaucoup Nicolas, 7h22.
Europe 1.
Cet après-midi sur Europe 1, ne manquez pas, Onde la traconte. Christophe Ondelat va vous raconter un meurtre façon Jonathan Daval.
Oui, c'était en janvier 2017 à Vescovato, en Haute-Corse. Jennifer, une mère de famille de 31 ans, disparaît. Son compagnon est le premier à donner l'alerte à la gendarmerie. Il explique que la veille, ils se sont disputés et que Jennifer avait bu et elle est partie au volant de sa voiture. À votre avis, qui est le meurtrier? La suite de cette histoire, on la raconte, c'est cet après-midi de 14h à 15h sur Europe 1.
Bon réveil avec Europe 1, l'essentiel de l'actualité à 7h22, le journal permanent Victor Pourchet.
La piste d'un refus d'obtempérer privilégié après la mort hier soir à Aubervilliers d'un jeune homme à scooter entré en collision avec une voiture de police lors d'une course-poursuite. Un troisième véhicule aurait refusé une priorité causant le choc. Le passager du scooter est en garde à vue. Les noms, numéros de sécurité sociale et adresses mail, toutes volées par des hackers sur les serveurs de France Travail. 43 millions d'usagers de l'ex-Pôle emploi sont concernés. Et puis l'Union européenne s'accorde sur une enveloppe de 5 milliards d'euros pour l'achat d'armes à destination de l'Ukraine. Emmanuel Macron sera au JT de TF1 et de France 2 pour évoquer le conflit ukrainien.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, weekend.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Le 14 mars 1964 s'achève aux États-Unis un procès retentissant. Ce jour-là, Jack Ruby est condamné à mort. La chaise électrique pour le meurtre de Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé du président Kennedy à Dallas. Assassinat, vous vous rappelez, le 22 novembre 1963. Mais une question cruciale, l'ordre d'Autriche va rester sans réponse à l'issue du procès.
Oui, Jack Ruby est-il un paranoïaque impulsif qui a agi de son propre chef ou un homme qui a agi sur commande pour faire taire l'assassin présumé de John Fitzgerald Kennedy. C'est un mystère aujourd'hui encore. Écoutez ce que disait l'avocat de Jack Ruby en 1963 sur Europe 1.
I think Ruby was out of his mind.
Je crois que c'est dans un moment de folie qu'il l'a fait. Il était fou pendant un certain temps, car l'événement qui venait de se produire 48 heures auparavant l'avait rendu littéralement fou.
Son procès va durer un mois en 1964 et Jack Ruby apparaît tel une rockstar aux yeux d'une partie des Américains. Il signe même des autographes pendant son procès. Écoutez.
Jack Ruby distribue des autographes en pleine salle d'audience. Comme je quittais le tribunal, j'ai vu de mes yeux des jeunes gens s'approcher des policiers qui gardent Ruby. Ils ont parlementé, puis ils ont fait passer à Ruby un carnet. Ruby n'a pas semblé étonné, il a signé et avec un sourire, il a rendu le carnet.
Et à la fin du procès, donc, Jack Ruby est finalement reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la chaise électrique. Le reporter d'Europe 1, Jacques Ourevitch, est sur place.
Les habitants de Dallas désapprouvent le verdict rendu par leurs 12 concitoyens. Parce que pour beaucoup, Ruby est malade. C'est un instable et épileptique ou non, il est irresponsable. Vous voyez, auprès de l'opinion publique de Dallas au moins, la défense a réussi à imposer sa thèse.
Mais deux ans plus tard, la justice reconnaît que le premier procès a été malmené parce qu'il s'est tenu à Dallas, la ville de l'assassinat de Kennedy. Et Jack Ruby, malade, meurt finalement en prison avant que ne s'ouvre le second procès.
Merci, Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et toute cette semaine, Europe 1 vous offre un beau cadeau. Nous sommes déjà jeudi, la semaine avance vite. Donc si vous voulez jouer, c'est maintenant ou jamais. Puisque toute cette semaine, Europe 1 vous offre un week-end pour deux dans un casino hôtel Partouche. Alors au programme, vous allez pouvoir faire votre choix sur la destination. Le Havre, Divonne-les-Bains, Hyères, Aix-en-Provence, Forges-les-Eaux ou encore Contrexéville. Sur place, des animations, 30 euros de crédit de jeu, un repas au restaurant et deux nuits à l'hôtel du casino. Vous avez toutes les infos pour faire le bon choix sur le www.partouche.com.
La question, la voici. Quelle est la date de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy? Était-ce le 20 septembre 63 ou bien le 22 novembre 63?
Pour tenter votre chance, c'est simple. Ce matin, vous envoyez Casino par SMS au 739-21. Deux fois 75 centimes plus que du SMS. Vous répondez à la question du jour. Et le tirage au sort aura lieu demain. C'est maintenant ou jamais. Bonne chance à tous. Je vous rappelle qu'à 8h d'ici, Elbron Privé sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
La présidente de l'Assemblée nationale face à Sonia Mabrouk. Rendez-vous dans trois quarts d'heure.
Europe 1 matin.
7h, 9h.
Dimitri Pavlenko.
Et bon réveil à vous à la une ce matin. Le projet de loi sur la fin de vie servira-t-il de cheval de Troie pour les défenseurs de l'euthanasie? Révélation Europe 1. Les députés de la majorité ont la ferme intention d'aller au-delà de la simple aide à mourir présentée cette semaine par Emmanuel Macron. Explication dans un instant. Sciences Po Paris dans la tourmente. Gabriel Attal a saisi la justice hier pour des faits à caractère antisémite après une manifestation pro-palestinienne mardi lors de laquelle une étudiante juive a été interdite d'entrer dans un amphithéâtre. Et puis ce refus d'obtempérer, cette course-poursuite qui vire au drame à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Un jeune de 19 ans en scooter est mort hier soir après avoir percuté une voiture de police. Récit des faits dans un instant. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'aide à mourir dévoilée cette semaine par Emmanuel Macron continue de diviser la classe politique, les soignants, les représentants religieux. Le projet de loi sur la fin de vie sera présenté en Conseil des ministres en avril prochain. Le gouvernement assure qu'il va également s'accompagner d'une augmentation de moyens pour les services de soins palliatifs largement sous-dotés en France. Ces unités accompagnent les patients dans un cadre de plus en plus tourné vers la vie, comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Sandrine Prioul au CHU de Rennes pour Europe 1.
Vous voulez pas la couverture ?
Cette chambre XXL entre les espaces de balnéo et de bien-être, des salons aménagés comme à la maison et surtout pas d'horaire d'hôpitaux dans cette unité dirigée par le docteur Vincent Morel.
Dans l'unité de soins palliatifs, ce qui peut être paradoxal, c'est que c'est un lieu d'abord de vie où on va se densifier ce temps qui reste à vivre et on va faire en sorte qu'il ait du sens. Tout notre enjeu, c'est de mettre notre expertise, notre empathie au service d'un patient qui veut réaliser un projet pour les jours qui lui restent à vivre.
Les photos des derniers projets de vie s'affichent au mur. Une patiente en fauteuil à cancale pour voir la mère une dernière fois. Demain, un autre mangera au McDo avec son fils. Des bonheurs simples qui font dire au docteur Géraldine Texier que la demande d'euthanasie reste exceptionnelle.
Quand la demande existe, le plus souvent elle cède avec l'expertise d'un accompagnement en soins palliatifs quand les symptômes s'évanouissent et que la vie peut de nouveau être possible parce que le corps n'est plus souffrant. On est à moins de 5 par an dans un service comme le nôtre qui vont maintenir ce type de demande.
Psychologues, personnel soignant, cadre de santé, tous se rejoignent sur cet impondérable, accorder assez de temps aux patients pour choisir sa fin de vie.
Sandrine Prioul, et selon les informations d'Europe 1, le député Modem Olivier Falorni, grand défenseur de l'euthanasie, est pressenti pour être le futur rapporteur du projet de loi présenté à l'Assemblée au mois de mai. Un nouveau refus d'obtempérer a viré au drame hier à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Un jeune de 19 ans est mort après une course-poursuite. Il a percuté en scooter une voiture de police. Son passager, lui, est en garde à vue. Deux enquêtes sont ouvertes, dont une de l'IGPN, la police des polices.
La Sciences Po Paris. La justice saisie par Gabriel Attal après des faits à caractère antisémite.
Le Premier ministre s'est rendu sur place hier, la prestigieuse école parisienne secouée par la polémique après une manifestation pro-palestinienne dans un amphithéâtre cette semaine et une étudiante juive interdite d'entrer en cours. Thibault Huss, c'est loin d'être la première polémique que traverse l'institution de sciences politiques.
Oui, en mars 2021, déjà des affiches sont collées sur les murs de l'entrée de Sciences Po Grenoble. Dessus, on peut lire des fascistes dans nos amphis, l'islamophobie tue, mais aussi le nom de deux professeurs pointés du doigt par certains étudiants pour discrimination. Une enquête est alors ouverte pour injures publiques et dégradation par le parquet de Grenoble. En avril 2023, à Sciences Po Lille, cette fois, les noms de 11 élèves sont tagués avec la mention « mur de la honte ». D'après la direction, la plupart sont identifiables car opposés au blocage contre la réforme des retraites. Et les polémiques se poursuivent. Deux jours après les attaques du Hamas, un tract provoque l'indignation à l'IEP de Menton. Les terroristes y sont qualifiés de résistants. Et plus récemment, le 29 février dernier, quelques étudiants brandissent un drapeau de la Palestine et scandent « Palestine vivra, Palestine vaincra ». Gabriel Attal, le Premier ministre, s'est rendu hier après-midi à Sciences Po Paris et pointe du doigt, je cite, « une minorité agissante et dangereuse ».
Thibault Huss pour Europe 1 et Gabriel Attal dont on vient de parler qui s'alarme dans une interview accordée à l'agence France Presse. La laïcité n'a jamais été autant menacée en France, un avis partagé par 78% des Français selon un sondage du Figaro. La défense de la laïcité à l'école mais aussi les groupes de niveau au collège, eh bien il en sera question aujourd'hui. Le Premier ministre est attendu dans un collège de Chartres pour s'exprimer devant les directeurs d'établissement.
Il est 7h35 sur Europe 1. Cette journée noire en vue à la SNCF. Alors j'ignore si vous avez pris vos billets de train, mais enfin pensez-y, le 26 juillet, pourrait bien être synonyme de grande pagaille.
Ce sera le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. L'espace aérien sera fermé une partie de la journée. Alors en dehors de la voiture, le train sera donc le seul moyen de se déplacer. Et on a appris hier que la SNCF n'était pas encore en mesure d'ouvrir les trains à la réservation spécialement pour venir assister aux épreuves, Aurélien Fleurot.
Si les réservations n'ont jamais été aussi nombreuses hier à l'ouverture des ventes pour l'été, ce n'est pas en remplissant les trains du 26 juillet. La SNCF a dû communiquer en cours de journée pour annoncer qu'il restait encore trop d'incertitudes quant aux conditions d'accès de trois gares parisiennes, Gare de Lyon, Paris-Bercy et Austerlitz. La cérémonie d'ouverture sur les quais de Seine est un tel enjeu de sécurité que les modalités précises seront connues ultérieurement. Problème, cela va tomber à la veille du plus gros week-end de chassés-croisés dans les gares entre juilletistes et haussiens. Soit 400 000 personnes rien que pour les grandes lignes sur cette journée précisément l'an dernier. Ces gares sont situées en zone rouge, donc avec un accès restreint. Alors faut-il s'attendre à ce qu'elles soient fermées pendant quelques heures, à l'image de ce qu'il se passera dans les aéroports parisiens, sans aucun vol entre 19h et minuit dans un périmètre de 150 km autour de la capitale? Pas de réponse officielle. La SNCF précise simplement que les billets seront mis en vente dès validation des conditions d'organisation par les pouvoirs publics.
Aurélien Fleurot pour Europe 1.
Et direction la région Auvergne-Rhône-Alpes, à présent, c'est là que se trouve le nouveau filon à exploiter, le lithium, le ce métal indispensable pour les batteries de nos smartphones ou nos voitures électriques.
Aujourd'hui, la France en importe 100% de ses besoins en lithium, mais ça va changer grâce à un gisement découvert il y a 2 ans à Échassières dans l'Allier. Une immense mine doit ouvrir en 2028, mais à quoi cela va-t-il ressembler? Le reportage de Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
C'est une immense carrière de granit blanc au milieu d'une forêt. Depuis 150 ans, on en extrait du kaolin. Le lithium, l'or blanc, est en fait juste en dessous, explique Christophe Eman, directeur du site.
Le lithium est là juste sous nos pieds, en effet. En grosse quantité, plus d'un million de tonnes de minerai de lithium à 0,9%. Vous voyez un petit peu partout des petites taches brillantes. C'est ces micas qui reflètent la lumière du soleil et c'est eux qui sont porteurs du lithium.
Un gisement plein de promesses, confirme Alan Part, vice-président lithium pour la société Imerys.
Ce que nous visons, c'est de produire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de 2028, ce qui correspondrait aux besoins d'environ 700 000 véhicules électriques par an.
Et face aux craintes de certains riverains, le projet se veut exemplaire au niveau environnemental, rassure Christophe Eman.
On a mis en place la mine souterraine avec une remontée du minerai par convoyeur plutôt que par camion, et ensuite un transport entre l'usine, la station de chargement qui se fera par canalisation, ça empêche également du transport routier, pour ensuite prendre le train, pour également avoir un bilan carbone le meilleur possible.
Coût du projet, 1 milliard d'euros. À la clé, 1600 emplois directs et indirects pour 30 ans minimum. L'enjeu, réduire notre dépendance aux importations chinoises et renforcer notre souveraineté industrielle. Et Échassières, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Dans l'actualité musicale à présent à 7h38 sur Europe 1, cette fois c'est pour de bon, il prend sa retraite. Sardou, plus de 100 millions de disques vendus. Il annonce sa retraite à la fin de sa tournée qui s'appelle Je me souviens d'un adieu et qui s'achève ce dimanche à l'Accor Arena de Paris.
Voilà, la retraite peut-être pour mieux revenir, sait-on jamais, Anissa.
Michel Dabi. Sardou qui est le parrain quand même de Pascal Pro et vous, l'émission de 11h à 13h tous les jours sur Europe 1. Donc peut-être qu'il viendra, il aura peut-être plus de temps pour venir nous voir.
L'invité de la première de la saison, effectivement, vous avez raison, Anissa Haddadi. Michel Sardou, donc sa retraite, merci beaucoup. C'était votre journal, Nina. Vladimir Poutine, on va parler de lui dans un instant. Est-il sérieux quand il affirme que son pays est prêt à un conflit nucléaire? Est-ce qu'il dit vrai, le président russe, quand il juge l'arsenal russe plus avancé que celui des États-Unis? C'est en tout cas ce qu'il a déclaré à la télévision hier, à 4 jours de l'élection présidentielle en Russie. Le regard de Vincent Hervouet dans un instant sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre début de journée. Bon courage, il est 7h42, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, votre édito politique, on parlera avec Alexis Brézet de cette intervention à la télévision ce soir d'Emmanuel Macron pour une fois parler de l'Ukraine, une fois encore parler de l'Ukraine. Est-ce son entrée, à sa façon, au président dans la campagne des élections européennes? On va voir ça. Le Club Culture d'Europe 1 Matin, le jeudi, on va au théâtre avec Marie Jiquel. Bonjour Marie.
Bonjour Dimitri. On va retrouver Pierre Arditi qui retrouve les planches.
Il va mieux, il a fait un
très
petit...
en forme, vous allez l'entendre.
Oui, il a fait un petit malaise il y a 6 mois, elle était tombée dans les bras.
Ça va mieux, ça va mieux, il nous rassure.
Vraiment. De Muriel Robin sur scène, bon tant mieux. Nicolas Caro, le livre du jour. Bonjour,
bonjour
Nicolas.
Bah, moi c'est un petit événement quand même, c'est un roman inédit de Gabriel Garcia Marquez. Gabo.
Ah, et c'est magnifique, c'est un petit bijou.
A tout de suite, mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vincent, grande interview de Vladimir Poutine hier soir à la télévision russe. Il a évoqué de nouveau son arsenal nucléaire qui serait, dit-il, plus moderne que celui des États-Unis.
Mais alors parmi les faiblesses de Vladimir Poutine, il y a sa vanité nucléaire. Tous les prétextes sont bons pour vanter son arsenal. On le sent bluffé par les missiles hyper-véloces. Comme quand il avait 10 ans devant les premiers Spoutnik, il explique que la Russie est la seule avec l'Amérique à disposer vraiment de triades. Rien à voir avec les mafias chinoises. Il parle des trois vecteurs de l'arme nucléaire, les missiles nucléaires dans les silos, dans les sous-marins ou à bord d'avions.
Alors depuis d'ailleurs la fermeture du plateau d'Albion, la France, elle, n'a plus de triade nucléaire.
Et Moscou a toute la panoplie et c'est de loin la plus moderne, c'est ce que prétend Vladimir Poutine. Rassurez-vous, il n'a jamais songé à s'en servir. La Russie est prête à un conflit nucléaire, mais sa doctrine militaire, c'est d'utiliser ses armes de destruction massive seulement si son existence est menacée ou en cas d'atteinte à sa souveraineté et à son indépendance. Alors évidemment, plus il tient à rassurer, plus il inquiète, et c'est fait pour ça, pour qu'on se demande si les bombardements répétés de cibles en Russie par les drones et les missiles ukrainiens constituent ou non des atteintes à sa souveraineté. C'est la fameuse ambiguïté stratégique, cette sorte de bluff fatal évoqué par Emmanuel Macron quand il se dit prêt à aller jusqu'au bout dans l'aide à l'Ukraine.
Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron, Vincent, a impressionné Vladimir Poutine ?
Eh bien, il le cache bien. Il balaye d'un revers de main l'hypothèse d'un renfort de troupes occidentales en Ukraine en expliquant que ça ne changerait rien sur le champ de bataille. À l'évidence, il faut avoir des triades pour être pris au sérieux à Moscou. Avec Emmanuel Macron, Vladimir Poutine parlait d'Afrique. Il fait mine de s'étonner d'ailleurs qu'il y ait de la rancune, du ressentiment à l'Élysée, car il s'agit selon lui de dossiers purement économiques. Ce n'est pas sa faute si les dirigeants africains préfèrent le groupe Wagner au para-français. Comme si les mercenaires n'avaient pas été appuyés par les services spéciaux russes, comme si Moscou n'avait pas utilisé tous les moyens pour chasser la France du Sahel.
Mais qui, Vladimir Poutine, espère-t-il convaincre ?
Mais il est en campagne militaire et électorale. Dans 3 jours, il sera élu avec plus de 70% des voix. Il n'y a que lui qui sache combien, précisément. En attendant, il ne fait ni meeting ni débat télévisé, ce serait des choix. Il ne va pas descendre dans l'arène où il n'a autorisé que 3 sous-fifres qui font de la figuration. Mais il se montre, il bouge, il parle. Pendant des mois, il a régné par l'absence. En Europe, les criminologues de plateau le disaient très malade, avec 2 ou 3 cancers, des tas de sosies, à l'agonie dans sa datcha et dans la paranoïa, à moins qu'il soit déjà mort et que personne n'ait osé le lui dire. Eh bien, toutes ces diableries sont oubliées. On ne voit plus que lui, Poutine avec des ouvriers, le président avec des étudiants, Vladimir Vladimirovitch aux commandes d'un bombardier stratégique. Il prend au sérieux le rituel de l'élection, il en a besoin pour se légitimer. Mais il n'y a aucun suspense, évidemment, comme dans la plupart des 76 pays qui vont voter cette année.
Ouais. Et d'ailleurs, il n'a même pas de programme électoral, Vladimir Poutine.
Mais dans son discours à la Nation, il y a 15 jours, il a promis des milliards de roubles pour moderniser la Russie. Il ne s'est pas attardé sur l'Ukraine et pour cause, le bilan est désastreux. Son armée a été tenue en échec par la petite armée ukrainienne. L'OTAN s'est étendue à la Finlande et à la Suède. 1 million de Russes se sont exilés. Des secteurs clés comme l'automobile ou l'exportation de gaz sont par terre. Les caisses se vident. Et Moscou est désormais dans la dépendance de Pékin. C'est bien parce qu'il n'y a aucune raison de pavoiser que Poutine brandit son arsenal nucléaire.
Ouais, lecture intéressante. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. 7h46.
7h-9h, Europe 1 matin.
Le livre du jour, Nicolas Caro. Alors, les classiques d'habitude, c'est le vendredi, mais là, vous avez entre les mains un livre de Gabriel Garcia Marquez.
Mais ce n'est pas Cent ans de solitude ou L'amour au temps du choléra. Ça s'appelle Nous nous verrons en août, publié chez Grasset. Et il ne peut pas encore être un classique. C'est un roman inédit. Il vient d'arriver dans les librairies. Gabo est mort en 2014, mais ses fils publient ce roman dont le prix Nobel voulait se débarrasser. Ce sont eux, ses fils, qui expliquent l'histoire de ce manuscrit dans la postface.
Alors, ça ressemble à quoi ?
Alors, je vous lis le tout début, tiens. Elle revint dans l'île le vendredi 16 août par le bac de 3 heures de l'après-midi. Elle portait un jean, une chemise écossaise à carreaux, des chaussures simples à talons plats, sans bas, une ombrelle en satin, son sac à main et pour tout bagage, une mallette de plage. Cette femme, c'est Anna Magdalena. Elle se rend sur une petite île des Caraïbes pour déposer des glaïeuls sur la tombe de sa mère dans un petit cimetière pauvre au portail rouillé. Elle fait ça chaque année. Le 16 août, c'est comme ça. Chaque année, même heure, même taxi, même hôtel, même fleuriste. Elle dépose les fleurs, elle nettoie un un peu la tombe et celle d'à côté. Puis le lendemain, elle repart chez elle retrouver son mari et à l'année prochaine.
Alors j'imagine que cette année, il va se passer quelque chose.
Exactement. Elle a 46 ans cette année, Anna Magdalena. Ce soir-là, elle descend au bar pour dîner avant de remonter pour lire Dracula de Bram Stoker qu'elle a emmené avec elle et qu'elle lit avec la ferveur qui s'attache au chef-d'œuvre, écrit Garcia Marquez qui s'y connaît en chef-d'œuvre. Elle mange un sandwich rapide. Autour d'elle, il y a surtout des touristes, mais il y a un homme en face qui l'observe. Elle lui jette un regard, il rougit. Bref, je vous fais pas un dessin. Il parle musique, littérature, Debussy, il compare le livre de Stoker et le film de Coppola. Lui est espagnol et elle sait pas pourquoi, elle ne l'explique pas, mais ils ont donc passé la nuit ensemble et à partir de cette année-là, chaque 16 août lui réservera une aventure différente sur cette île. C'est très étonnant de lire ce Garcia Marquez inédit et même s'il n'en était pas satisfait complètement, même s'il n'a pas été retravaillé, poli, raboté, etc., on mesure quand même là la puissance créatrice des maîtres. C'est virtuose et vif et beau.
Voilà, en tout cas.
Vous nous avez donné envie.
Oui, Anissa Dadi, elle est
du fan club de Nicolas Caron.
Elle est jalouse, là, par l'histoire.
Ah ouais, très envie de lire ce livre.
Gabriel Garcia Marquez, donc nous nous verrons en août, ça vient de paraître chez Grasset. Marie Jiquel au théâtre cette semaine, un vétéran des planches. Alors lui, ça fait 60 ans qu'il les arpente. Et je le disais, il avait inquiété tout le monde il y a 6 mois avec un petit malaise sur scène. Pierre Arditi va mieux. Il se livre pendant 1h30 dans un seul en scène, c'est au théâtre de la Pépinière à Paris.
Oui, et vous allez l'entendre, Pierre Arditi est en forme, il est ravi de retrouver le public.
C'est comme une famille qu'on quitte momentanément et qui revient à la maison pour raconter ce qu'on ne s'était pas encore raconté ou ce qu'on n'avait pas eu le temps de se raconter avant de passer vraiment l'arme à gauche. Mais je vous préviens tout de suite, ce n'est pas pour maintenant.
Espiègle, charmant, plein d'autodérision, Pierre Arditi nous invite dans cet écrin qui est le théâtre de la Pépinière à Paris. Une rencontre en toute simplicité pour nous donner de ses nouvelles après les quelques malaises de l'automne dernier sur scène.
Ça me fait plaisir de parler aux gens qui m'ont pas vu depuis un moment. Je sens bien qu'ils viennent vérifier que je suis encore vivant. Donc c'est bien. Je leur dis, oui, voilà, ça va, vous? Oui, ben moi, ça va mieux. Enfin, en tout cas, normalement, cette fois-ci, je devrais pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, ça les fait marrer.
Voilà, il est en pleine forme. Mise en scène sobre, un simple bureau. Pierre Arditi s'y installe pour lire des textes qu'il chérit, de Yasmina Reza, de Jean-Michel Ribes, des dramaturges avec lesquels il a travaillé, des extraits autobiographiques, des nouvelles, des petites fictions gorgées de malice, de traits d'esprit, lus le sourire en coin. Alors, ça n'est pas du théâtre, mais grâce à Arditi, forcément, ça le devient.
Oui, il y a un hommage au théâtre, mais c'est ma vie, hein. C'est ma vie, le théâtre. Je suis jamais autant à nu que quand je joue au théâtre. J'ai pas de masque, mais les gens ne le savent pas. On passe en grande partie à jouer sa propre histoire.
Parfois, Pierre Arditi se lève, se rapproche du public avec lequel il instaure une vraie connivence. Et puis, il livre 2-3 anecdotes. Sa tante qui lui racontait des histoires avec ce ton dont je parlais, le ton théâtral qui lui a donné envie de rejoindre les planches. Ou alors, sa tendre jalousie pour Jean Rochefort qui reprenait ses rôles mieux que lui. Ça, c'est lui qui le dit. Un moment privilégié à ne pas rater.
Voilà, ça s'appelle La Pépinière de Pierre Arditi. C'est au théâtre de la Pépinière jusqu'au 24 avril à Paris. Il y aura une suite, nous dites-vous,
oui.
Marie.
Avec de nouveaux textes.
Ah, très bien.
Textes de Michel Onfray et de Grimbert.
Intéressant. Merci. Un peu à la manière de...
Comment ça s'appelle ? Fabrice Pucchini.
J'allais le dire. Merci. Vous me coupez l'herbe sous le pied. Mais je vous en remercie, Nicolas Caron. Allez, à demain. Merci, les amis. Vincent, bon week-end. Oh, il est sur son téléphone,
on
Vincent. Il nous écoute plus.
Dans votre...
Mais toujours. Allez, dans un instant, l'édito politique sur Europe 1. Mais d'abord, à 7h51, le journal permanent. Nina Pavan.
Gabriel Attal persiste et signe. Les groupes de niveau au collège seront la norme à la rentrée prochaine. Voilà ce que compte annoncer le Premier ministre en déplacement aujourd'hui dans un collège à Chartres. Nom, adresse, numéro de sécurité sociale, ils ont tout volé. Cyberattaque en règle contre France Travail, le nouveau Pôle emploi. 43 millions de Français potentiellement concernés par cette fuite de données personnelles. Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques, c'est peut-être déjà compromis selon les informations du journal L'Équipe. Si l'attaquant star du PSG signe avec le Real de Madrid cet été, il devra sûrement laisser passer son tour. Participer aux JO retarderait son début de saison avec le club espagnol.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézé.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors Alexis, ce soir Emmanuel Macron va intervenir à la télévision pour parler une fois encore de l'Ukraine. Est-ce que c'est son entrée officielle dans la campagne des européennes, Alexis?
C'est intéressant Dimitri que vous posiez la question en ces termes. Parce que si on y réfléchit bien, hormis le choix affiché, et assumé par Emmanuel Macron de faire de la question ukrainienne le thème numéro un de la campagne européenne. Les deux sujets, en vérité, mais n'ont rien à voir. Les questions de défense ne sont pas des questions européennes. D'après le texte même des traités, elles sont l'affaire exclusive des exécutifs nationaux sous le contrôle de leur Parlement. Il n'y a pas de commissaire européen à la défense, pas de budget européen de la défense. Les députés européens qui seront élus le 9 juin prochain au Parlement de Strasbourg n'auront jamais, et je dirais tant mieux, à voter sur la question de la paix ou de la guerre avec la Russie. Ce n'est pas de leur ressort. Et d'ailleurs, quand les pays européens veulent prendre des engagements en matière de défense vis-à-vis de l'Ukraine, ils le font, et on vient de le voir, sous la forme d'accords bilatéraux. À l'inverse, si l'on parle d'Europe et de campagne pour les élections européennes, il y a aujourd'hui un autre événement qui devrait retenir l'attention de tous les commentateurs. C'est le premier débat de la campagne, organisé en fin de journée sur Public Sénat, entre toutes les têtes de liste, à l'exception de Jordan Bardella, qui a fait le choix curieux d'être représenté par Thierry Mariani, grand ami de la Russie. Une confrontation politique ce soir donc, au cours de laquelle doivent être abordés les grands thèmes qui structurent le débat européen. L'agriculture, l'emploi, l'immigration, l'énergie, la transformation numérique, le réchauffement climatique, il ne manque pas. C'est autour de ces questions que devrait en théorie s'organiser la confrontation démocratique entre les différentes listes. C'est à ça, normalement, que sert une élection. Mais là où vous avez raison, Dimitri, c'est qu'on va mille fois moins parler de ce débat sur l'Europe que de l'intervention sur l'Ukraine du président.
Et pour vous, ce n'est pas un hasard, Alexis.
Bah non, évidemment non. Il s'agit d'un hold-up politique, pour l'heure assez bien mené, lancé par le président de la République sur la campagne européenne. N'oubliez pas qu'il a une certaine expérience en la matière. Lors des européennes de 2019, après la crise des Gilets jaunes, le fameux grand débat, des heures et des heures de palabres en direct à la télévision, lui avait permis de saturer totalement l'espace médiatique. À la présidentielle de 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie lui avait donné l'occasion, vu la gravité bien réelle des événements, de mettre entre parenthèses toute la campagne présidentielle qui finalement n'avait pas eu lieu. Eh bien, en 2024, pour sa dernière bataille politique avant la fin de son mandat, Emmanuel Macron tente le combo, coup double. L'omniprésence médiatique, comme en 2019, et il est vrai qu'on ne l'a jamais tant vu ni tant entendu, hein, en dehors, soit dit en passant, de toute comptabilisation de son temps de parole dès lors qu'il intervient en tant que chef de l'État. Et à côté de cela, la focalisation sur l'Ukraine, comme en 2022, dont il attend qu'elle ait pour effet de valoriser le camp du président protecteur de la nation et de faire passer au second plan les questions européennes moins flatteuses.
Bon, pour l'instant, le hold-up présidentiel, comme vous dites Alexis, a l'air de plutôt bien se dérouler.
Bah, disons qu'Emmanuel Macron a, pour le moment, réussi à imposer sa thématique ukrainienne en tête de l'agenda médiatique. Dans l'opinion, on en est fort loin. Selon un récent sondage de Doxa Backbone pour le Figaro, les Français placent la guerre en Ukraine en 10e position de leur priorité pour les élections européennes. Loin, très loin, derrière l'inflation, le pouvoir d'achat, la sécurité, la protection sociale ou l'immigration. Vous connaissez le film de gangster, Dimitri ? À la fin, dans un hold-up, c'est à la fin qu'on voit qui part vraiment avec le magot.
L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézé. À la une du Figaro ce matin, 20 ans après la loi de 2004, la laïcité toujours menacée. C'est en tout cas le sentiment de 8 Français sur 10 selon un autre sondage que le Figaro publie ce matin. Merci beaucoup Alexis.
Et il est 7h56. Merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon début de journée. Nous sommes le jeudi 14 mars.
Et nous fêtons ce jour Sainte Mathilde, duchesse de Saxe, épouse d'Henri, roi de Germanie. Elle eut beaucoup à souffrir de son fils Othon, premier souverain du Saint-Empire romain germanique, qui lui reprocha sa générosité jugée ruineuse. Sans doute sommes-nous là aux sources du tempérament germanique, je ne sais pas, peut-être. Bon réveil avec
Bonne
Europe 1.
Mathilde.
Bonne fête Mathilde.
Bonne fête,
oui. Mathilde. Au oui. Programme de la vous connaissez des Mathilde, semble-t-il. Au programme de la prochaine heure, Emmanuel Ducrot nous parlera de cette prime d'intéressement des contrôleurs SNCF sur les amendes qu'ils infligent aux voyageurs. Dans un quart d'heure, face à Sonia Mabrouk, la présidente de l'Assemblée nationale sera là. Yael Braun Pivet, invité de la grande interview Europe 1 CNews. Jeudi 14 mars, bonne journée, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et cette nouvelle alerte de Gabriel Attal au détour d'une interview accordée à l'agence France Presse hier. La laïcité plus que jamais menacée, dit le Premier ministre, qui est en déplacement ce jour dans un collège de Chartres pour réaffirmer son souhait, la mise en place de groupes de niveau en français et en maths à la rentrée prochaine. Le poisson pourrit toujours par la tête. Autre déclaration du locataire de Matignon, cette fois à Sciences Po Paris, c'était hier. Visite de dernière minute pour dénoncer les actes et
propos antisémites dans l'école. Le Premier ministre annonce un dépôt de plainte. Dans ce journal également, un nouveau refus d'obtempérer. Ça s'est passé hier soir à Aubervilliers. Un mort, un blessé léger. Et puis qui sera le porte-drapeau des Jeux Olympiques de Paris? Règle difficile, choix compliqué. Les explications d'Europe 1 à la fin de ce journal. 8h10, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Au programme, le naufrage antisémite à Sciences Po Paris, la laïcité menacée à l'école et la fin de vie qui va électriser le Parlement.
Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La laïcité est menacée. Confession de Gabriel Attal hier soir à l'AFP, 20 ans après la promulgation de la loi interdisant le port de signes religieux à l'école. Elle a ses ennemis politiques, religieux, mais aussi ses défenseurs, nos professeurs, nos fonctionnaires, nos forces de l'ordre, a déclaré le Premier ministre dans un entretien dédié à l'éducation. Gabriel Attal qui promet d'aider les professeurs dont les enseignements sont contestés, avec la création de cellules d'appui pédagogique. Alors comment cela va-t-il fonctionner, Louise Salé ?
Si un élève oppose à un cours des arguments religieux, eh bien pour faire face à cette situation, le prof concerné peut demander du soutien auprès d'un collègue formé pour être accompagné pédagogiquement et également, si besoin, bénéficier d'une présence physique dans sa classe. Yanis Roder enseigne l'histoire géo dans un collège de Seine-Saint-Denis.
On voit depuis plusieurs années monter un phénomène qui est inquiétant, c'est le phénomène de l'autocensure des enseignants. Qu'ils puissent pouvoir se tourner vers des collègues, soit à l'intérieur de l'établissement, soit à l'extérieur, parce que parfois c'est plus facile de se tourner vers des collègues à l'extérieur. Je pense que ça peut être une aide.
Enfin, Gabriel Attal réaffirme sa volonté de voir naître les groupes de niveau au collège. La ministre Nicole Belloubet avait dit la semaine dernière vouloir mettre de la souplesse dans ce dispositif, en autorisant des temps en classe entière. Mais Gabriel Attal précise bien que les 6e et 5e étudieront par groupe les maths et le français au moins les trois quarts de l'année à partir de septembre.
Louise Salé, spécialiste éducation d'Europe 1, Gabriel Attal qui reprend la main donc sur l'éducation, Nicole Belloubet reléguée au second plan. Tous deux seront cet après-midi dans un collège de Chartres en Eure-et-Loire.
Le Premier ministre qui s'est invité hier soir au conseil d'administration de Sciences Po Paris, il a annoncé la saisine de la justice après les actes et propos antisémites tenus mardi par certains étudiants.
Oui, lors d'une conférence sur la Palestine, une étudiante juive s'est vue refoulée à l'entrée en raison de sa religion. La laisse pas entrer, c'est une sioniste, aurait déclaré certains militants. Emmanuel Macron dénonce un début de séparatisme, ce qui en dit long sur l'ambiance délétère au sein de cette prestigieuse école. Écoutez l'analyse de François Gemène, enseignant-chercheur à Sciences Po.
J'ai l'impression que sur ce sujet du conflit à Gaza, comme sur beaucoup d'autres, notamment en matière d'écologie, on a vraiment une très forte polarisation des débats où on a vraiment deux camps qui parfois ne parviennent plus à se parler et donc ça fait des débats qui sont très très violents et c'est vrai que je suis un peu inquiet. Je pense qu'on s'emmure de plus en plus dans des bulles de certitude, c'est-à-dire la conviction d'avoir raison et que l'autre a forcément tort parce qu'il a un avis différent. Et si on est convaincu que son avis est la vérité, malheureusement ça ne laisse plus beaucoup de place au débat. J'imagine que ça doit être pesant pour les étudiants, notamment pour certains étudiants qui se sentent attaqués dans leurs croyances, parfois dans leur identité. Et puis, je pense que ça cause aussi un dommage de réputation assez important pour l'école. Je pense que c'est très important que les lieux d'enseignement-éducation soient des lieux de débat. Je pense que ça nécessite aussi de pouvoir écouter l'autre et d'accepter que parfois on peut avoir tort.
François Gemène au micro Europe 1 de Camille Moreau.
L'Académie de Créteil a saisi la justice après la diffusion de photos d'élèves au visage grimé en noir lors d'un carnaval.
C'est ce qu'on appelle les blackface, pratiques considérées comme racistes. Ces élèves d'un lycée privé catholique de Seine-et-Marne auraient aussi imité des cris de singes, selon l'un de leurs camarades. Le procureur a été saisi, une enquête administrative a été ouverte.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05.
Le projet de loi sur la fin de vie ne sera présenté que le mois prochain devant l'Assemblée, au Conseil des ministres. Mais il sème déjà la zizanie au sein de la majorité présidentielle.
Et oui, lundi, Emmanuel Macron a annoncé une aide à mourir réservée aux majeurs capables de discernement. Mais cette condition fait débat, Jacques Serret. Certains dans le camp du chef de l'État souhaiteraient aller plus loin.
Avoir au moins 18 ans pour demander le suicide assisté ou l'euthanasie, ce critère est déjà remis en cause par bon nombre de députés macronistes dans les travées de l'Assemblée nationale. Ce cadre influent du groupe Renaissance, proche de Gabriel Attal, n'y va pas par quatre chemins. Oui, ça fait partie des points qu'il faut discuter. La question de la majorité ne peut être une condition à l'accès à un tel droit, estime un autre. Et ce parlementaire soutient du président depuis la première heure d'abonder en ce sens. Imaginez un gosse de 16 16 ans, qui a la maladie de Charcot. On lui dit quoi ? Pas de bol ? Tu ne peux pas ? Des interrogations qui ont de l'écho dans la majorité présidentielle, avec une partie des élus bien décidés à pousser la loi au-delà de ce que préconise le chef de l'État. Et ces élus pourraient bien avoir un soutien de poids. Selon les informations d'Europe 1, le député MoDem Olivier Falorni, défenseur de l'euthanasie, est pressenti pour être le futur rapporteur du projet de loi.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron qui s'exprimera à la télévision ce soir, 20h. Au menu, le soutien de Paris à Kiev. Hier, le Sénat a voté, comme l'Assemblée nationale mardi, en faveur de l'accord bilatéral signé entre la France et l'Ukraine.
Un jeune homme de 19 ans est mort hier soir après un refus d'obtempérer. Ça s'est passé à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.
Lors d'une course-poursuite, son scooter est entré en collision avec une voiture de police qui elle-même a dû éviter un autre véhicule. Son passager, légèrement blessé, a été placé en garde à vue. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont l'une par l'IGPN, la police des polices, qui pourra s'appuyer sur les vidéos de la ville puisqu'elles ont filmé la scène.
8h06 sur Europe 1, les serveurs de France Travail, mine d'or pour les pirates informatiques, la preuve avec cette cyberattaque qui a permis à des hackers d'accéder aux données personnelles hier de 43 millions de Français.
Soit plus d'un citoyen sur deux, Baptiste Morin. Quelles informations les pirates ont-ils pu voler dans les fichiers informatiques du successeur de Pôle emploi ?
Si les coordonnées bancaires des inscrits à France Travail n'ont pas fuité, la liste des données divulguées est longue. Nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, adresse postale, adresse email, numéro de téléphone. Beaucoup plus inquiétant, estime l'expert en cybersécurité, Antonin Illy.
Quand on a dans une banque de données un nom, un prénom, un numéro de sécurité sociale, une adresse postale, on peut faire énormément de choses. Dans le dark web, un numéro de sécurité sociale vaut beaucoup plus cher qu'un numéro de carte bancaire.
Sont concernés les actuels inscrits à France Travail, l'ancien Pôle emploi, mais aussi ceux qui l'ont été au cours des 20 dernières années. Au total, 43 millions de personnes potentiellement victimes des failles de l'opérateur de l'État.
Ils n'ont pas fait le nécessaire pour protéger la donnée. Ne pas mettre au même endroit un nom et un numéro de sécurité sociale, c'est une évidence quand je le dis. Ça l'est beaucoup moins dans les faits.
Pas plus rassurant, le temps de réaction de France Travail. L'attaque a eu lieu entre le 6 février et le 5 mars. Elle n'a été détectée que cette semaine.
Baptiste Morin, chef du service Société d'Europe 1.
Enfin, les sports à 4 mois des Jeux Olympiques de Paris. Cette question, qui portera le drapeau de la délégation française ?
Eh bien, on sait qu'ils seront deux, un homme et une femme. Ce sont eux qui ouvriront le bal lors de la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Martin Lange, le Comité National Olympique a établi une liste de critères assez restrictifs pour choisir ces deux porte-drapeaux.
Oui, tout d'abord, les futurs porte-drapeaux devront être olympiens, c'est-à-dire avoir déjà participé aux Jeux, ce qui écarte par exemple Kylian Mbappé ou Antoine Dupont. Par ailleurs, ils ne devront pas avoir déjà été porte-drapeaux, dommage pour Teddy Riner ou Clarisse Agbenienou. Dernier critère, le respect des valeurs de l'olympisme, ce qui pourrait écarter des sportifs condamnés par la justice, comme Nicolas Karabatic dans l'affaire des paris sportifs. Des critères restrictifs, mais qui vont permettre de découvrir de nouveaux profils, selon David Lapartien, le président du CNOSF.
On a la chance d'avoir dans le sport français Kylian Mbappé, Teddy, Clarisse, enfin voilà, des athlètes absolument extraordinaires. Mais le sport français ne se résume pas non plus à simplement trois athlètes. On aura 560 athlètes et c'est aussi normal que d'autres veuillent peut-être l'incarner. On a estimé que la densité du sport français permettait de cela.
Alors qui pour représenter les Bleus ? Le nageur Florent Manaudou a une bonne tête de favori, mais il n'est pas encore qualifié. Côté filles, la championne olympique de boxe Estelle Mosley ou encore la lanceuse Mélina Robert-Michon, 44 ans et déjà 4 Olympiades, pourraient tirer leur épingle du jeu.
Martin Lange.
C'était votre journal, Fanny Marceau. Merci beaucoup. 8h09 sur Europe 1. Reste avec nous dans quelques instants. Sonia Mabrouk reçoit Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Il est 8h09 sur Europe 1.
Bienvenue et bonjour Yael Braun-Pivet.
Bonjour.
Et merci de votre présence et votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale. Le gouvernement, Madame Braun-Pivet, va saisir la justice après les faits qui se sont déroulés à Sciences Po Paris. Une étudiante, je le rappelle, de confession juive a été interdite d'accès à un amphi rebaptisé Gaza. Gabriel Attal s'est rendu sur place hier. Comment vous qualifiez ce qui se passe à Sciences Po Paris et dans certaines universités françaises ?
C'est inacceptable, c'est intolérable. Les universités, les grandes écoles sont des lieux d'apprentissage, c'est des lieux où l'on forme notre jeunesse et ces lieux ne doivent pas devenir des lieux où, d'une part, on transforme ces lieux en lieux de militantisme effréné. On voit que l'amphi a été rebaptisé. Ça n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable non plus que des jeunes militants très courageux se couvrent le visage pour faire leur acte de militantisme. Moi, je ne le souhaite pas. Cela doit se faire à visage découvert. Et puis, il n'est pas acceptable, et c'est ça surtout l'important, et c'est pour cela que je termine par cela, de faire ces actes de racisme, d'antisémitisme, où que ce soit dans la société, mais encore plus dans une université.
Il y a un climat d'antisémitisme, diriez-vous aussi, qui s'installe, qui s'est installé à Sciences Po Paris et dans certaines universités.
On a un climat d'antisémitisme qui s'est installé dans notre pays, Madame Mabrouk. Ça n'est pas uniquement dans les universités. Pourquoi, avec le président du Sénat, il y a quelques mois, nous avons organisé une grande marche citoyenne, républicaine, contre l'antisémitisme? C'est bien parce que, en ce moment, il y a certaines personnes qui, d'une part, veulent importer un conflit qui a lieu aujourd'hui au Moyen-Orient, et d'autre part, se servent de ce conflit comme prétexte pour cibler une partie de la population et se livrer à des actes et avoir des propos antisémites.
Sur la scène politique, qui sont ces personnes? Parce que regardez les réactions, il y a le Braun Pivet de la France Insoumise qui minimise ce qui s'est passé à Sciences Po Paris. Jean-Luc Mélenchon, qui avait dit de vous, que vous campiez à Tel Aviv, rappelons-le, parle d'un incident dérisoire. Manuel Bompard dénonce une polémique montée par l'extrême droite. Donc il estime que l'association des Français juifs étudiants est d'extrême droite. Minimiser ce qui s'est passé, est-ce que vous estimez que minimiser ça, c'est être antisémite?
En fait, minimiser, ça n'est pas que être minimisé. C'est, en fait, en minimisant, il le nie. C'est pas la même chose. Et c'est
pourquoi
ça qui est grave.
Pourquoi?
Faudra leur demander, je ne suis pas le porte-parole de la France Insoumise.
Mais la question avait été posée au garde des Sceaux. Il a fini par dire, oui, Jean-Luc Mélenchon tient des propos à caractère antisémite.
Ouais. Vous savez bien que moi, j'ai décidé depuis plusieurs mois de ne pas répondre et de ne pas polémiquer avec ce triste sire. Donc, je ne le ferai pas plus ce matin sur votre plateau.
Triste sire, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Il ne mérite que mon mépris et je ne lui donnerai rien d'autre.
Vous aviez organisé avec succès, il y a le Braun Pivet, la marche contre l'antisémitisme avec le président du Sénat, Gérard Larcher, rappelons-le. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible dans un tel climat d'organiser en France une marche pour la paix, en pensant aux deux peuples? Est-ce que vous pourriez le faire avec le président du Sénat, ou est-ce que vous estimez qu'une telle marche serait entachée de débordements à caractère antisémite?
En fait, lorsque nous avons organisé notre marche, nous n'avons pas organisé notre marche par rapport au conflit qui avait lieu en Israël. Ce n'était pas le sujet. Notre sujet, c'était la France. C'était les valeurs de la République française et nous estimions que ces valeurs étaient menacées par une montée de l'antisémitisme. C'était ça notre sujet, rien d'autre.
Au sujet de l'école, Gabriel Attal a affirmé dans un entretien à l'AFP que la laïcité n'avait jamais été autant menacée. Dans un sondage ce matin dans le Figaro, on voit qu'une très grande majorité de Français s'en inquiète. Est-ce qu'il faut être plus sévère, Madame la Présidente, vis-à-vis de l'offensive islamiste dans nos écoles? Je pense par exemple à un rapport du Sénat sur la laïcité concernant, c'est l'une de leurs recommandations, le port de signes religieux à l'école. Et ce rapport dit qu'il faudrait élargir l'interdiction aux sorties organisées en dehors du temps scolaire. Est-ce qu'il faut être plus offensif de l'autre côté pour défendre cette laïcité, selon vous, et faire cela?
Ce qui est certain, c'est qu'il faut être intransigeant.
Est-ce qu'on l'est?
Il faut être intransigeant avec les valeurs qui sont les nôtres et il faut être intransigeant avec le respect de ces valeurs.
Mais quotidiennement, il y a des coups de canif.
Mais justement, il ne faut pas les tolérer. Il ne faut pas les tolérer parce que ça n'est pas acceptable et ça met en danger notre République. Il faut être très clair et il faut être très ferme sur ce qu'on est.
On ne l'est pas assez?
On ne l'est pas assez, on ne l'est jamais assez, il faut le rappeler continuellement, il faut continuer à former nos professeurs, à former nos élèves, parce qu'effectivement aujourd'hui on s'en rend compte, et c'est ce que moi je fais aussi à l'Assemblée nationale avec notre jeunesse, il faut sans cesse rappeler ce qu'est la laïcité, ce qu'elle permet, parce qu'aujourd'hui chez nos jeunes malheureusement, il y a peut-être le sentiment que la liberté de choix, la liberté d'expression doit tout surpasser. et que les jeunes doivent pouvoir, s'ils souhaitent exprimer leurs convictions religieuses par de l'habillement, etc., qu'il faut les laisser faire. Bien moi, ça, je ne le crois pas. Il doit y avoir des enceintes qui sont sanctuarisées. C'est ce que nous avons décidé. Et ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Ce sont nos prédécesseurs et c'est toute l'histoire de notre République. Nous y sommes très attachés. Les Français sont très attachés à la laïcité. Donc, mettons tout en œuvre collectivement pour qu'elle soit respectée. C'est la condition de notre pacte républicain.
Juste oui ou non pour la recommandation du rapport du Sénat, élargir l'interdiction de ces signes religieux aux sorties organisées aussi en dehors du temps scolaire ?
Il faut regarder, mais en tout cas, si ça s'avère nécessaire, j'y serais favorable.
Et juste une question, est-ce que la laïcité est suffisante comme rempart, comme bouclier ? Certains affirment qu'il faut plutôt engager le faire, si je peux dire, dans la bataille culturelle pour pouvoir faire des Français de désir, justement, pour qu'on aime ce pays, son histoire et ses belles figures. Est-ce que le combat est aussi dans ce domaine ?
Alors, le combat, il est global. C'est la laïcité, c'est aussi le combat de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la liberté d'expression. On voit bien que parfois, cette liberté d'expression, elle est entachée. Donc, c'est le combat sur les valeurs au sens large que nous portons en France et qui sont consubstantielles à ce qu'est notre République. Donc, c'est le combat pour la République. Après, moi, ce que je crois profondément, c'est que nous devons collectivement nous attacher à retrouver notre esprit, un esprit républicain, un esprit national. Qu'est-ce qu'une nation ? Et vous savez, une nation, c'est un groupement de personnes dans un territoire donné, mais c'est la définition de Renan, c'est qui a décidé de faire quelque chose ensemble, de construire ensemble quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous, ensemble, collectivement, on réfléchisse à où est-ce que nous voulons aller? Comment nous voulons y aller?
Nous allons parler à présent, Yael Braun-Pivet sur CNews Europe 1, d'un sujet majeur et intime, la fin de vie. Le président de la République a donc annoncé ce projet de loi, alors qu'il appelle aide à mourir. L'examen du projet débutera à l'Assemblée nationale, donc le 27 mai. Il y aura des débats longs et nourris. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin et garantir qu'il y aura la sérénité des débats sur un sujet aussi important?
C'est fondamental et vous avez raison de le pointer parce que c'est un sujet très intime qui concerne chacun de nos concitoyens. Moi, c'est un débat que j'avais appelé de mes voeux depuis plusieurs années. J'ai fait partie de celles qui ont échangé avec le président de la République, avec les membres de la majorité, pour pousser à ce que nous puissions avoir un projet de loi. Et donc, je suis déjà très satisfaite qu'enfin, après la Convention citoyenne, le Parlement soit bientôt saisi d'un projet de loi. Après, il faut respecter les convictions intimes de chacun, parce que nous ne savons jamais ce que la personne avec qui nous échangeons a vécu dans son intimité, dans son parcours personnel. Et donc, il ne faut pas courir le risque en exposant des convictions et en étant peut-être un peu enthousiaste ou parfois excessif de la blesser, cette personne.
D'accord, là,
de façon
c'est un
involontaire.
Avertissement.
Donc moi, ce que j'appelle...
Un avertissement serein ce matin, mais vous dites attention à ne pas qu'il y ait une forme d'aller trop loin sur un sujet qui peut blesser, qui peut heurter des sensibilités.
Exactement, il faut les respecter, il faut respecter chacun, il faut respecter ses convictions et ses croyances et ses histoires personnelles. Donc moi, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, je veillerai à garantir la sérénité des débats. Je m'impliquerai personnellement très activement dans la présidence de séance pour que justement chacun dans ce débat puisse être respecté. Nous devons ça aux parlementaires, mais nous devons ça à nos concitoyens et aux Français.
Dans les conditions de l'accès à cette aide à mourir, qui pour certains est un suicide assisté et l'euthanasie, il y a un point essentiel, Yael Braun-Pivet, qui est celui d'être majeur. C'est l'une des conditions fondamentales afin d'être capable d'un discernement plein et entier. Au sein de votre majorité, on s'interroge et certains voudraient aller plus loin et l'ouvrir aux personnes mineures. Certains disent, mais comment dire, un enfant qui a 16 ans et qui est atteint de la maladie de Charcot, qui répond à toutes les autres conditions, il ne pourrait pas avoir accès à cette aide à mourir. Alors je pose une question à la fois majeure et intime. Est-ce que vous êtes sur cette ligne à l'ouvrir aux mineurs ?
Alors moi, personnellement, je ne suis pas sur cette ligne, Madame Mabrouk. En revanche, c'est à ça que vont servir les débats parlementaires. Ces questions sont des questions fondamentales. Et donc, il est important qu'au Parlement, on puisse se poser ces questions. C'est à ça.
Et ça vous
donc, les parlementaires
qu'on puisse
vont pouvoir proposer des amendements. Ces débats vont avoir lieu. Et c'est en cela qu'il va falloir garantir la sérénité des débats. Parce que Il est légitime que des parlementaires puissent porter ces convictions, que d'autres y soient opposés, et l'Assemblée nationale, puis le Sénat, délibéreront et voteront.
Alors, sérénité des débats en pleine campagne des élections européennes. Est-ce que le président a fait là un hold-up ?
Alors, je vous disais à l'instant que moi, j'étais heureuse qu'on puisse enfin débattre de ce sujet. Vous savez, mais justement, vous savez, c'est un débat, il va falloir prendre le temps. Le temps d'une, de ce qu'on appelle une double navette parlementaire, puisqu'il n'y a pas de procédure accélérée. Et donc, si vous souhaitez, et c'est ce que je souhaite, que nous ayons un texte adopté avant la fin du quinquennat, il faut commencer maintenant. Et c'est la raison pour laquelle moi, je souhaitais que nous commencions avant l'été. C'est le cas et j'en suis pleinement satisfaite.
Alors, dans la poursuite sur ces sujets sociétaux, Emmanuel Macron a exprimé son intention, Yael Braun-Pivet, d'inscrire dans le droit la notion de consentement en matière de viol. Précisons à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent que très souvent, le consentement, c'est l'argument de l'agresseur. Mmh. Hein, et que dans le texte actuel, tout cela n'est pas précisé dans les détails. Est-ce que vous diriez oui, banco, si on le fait, on y va ?
Écoutez, ça, c'est également quelque chose qui doit faire l'objet d'un débat parlementaire. Donc,
demande à la présidente, à la femme,
et à l'avocate.
À la citoyenne et à l'avocate, vous voyez.
Mais effectivement, en fait, la définition du viol aujourd'hui en France est assez complexe. Donc, il faut regarder si on peut l'améliorer pour couvrir toutes les situations. Mais effectivement, la notion du consentement, elle est centrale dans la question du viol. Elle ne figure pas aujourd'hui dans la définition française du viol. Donc, il faut regarder ça avec attention et évoluer. Mais vraiment, tous ces sujets-là, ce sont des sujets très graves, très importants.
Mais qui dites-vous
donc, c'est
quand
pas...
vous dites attention ? Est-ce que vous le dites au président de la République ? Certains lui reprochent une sorte de chevauchée sociétale. Constitution de l'IVG, fin de vie, et maintenant la question du consentement.
Mais vous savez,
ça va trop vite, trop loin ?
Alors, ça va pas trop vite, parce que sur la fin de vie, vous savez, ça fait des années qu'on est vraiment mobilisé sur ce sujet. Donc, ça ne va pas trop vite. Après, vous savez... être sur les questions sociétales, c'est l'objet même d'un homme ou d'une femme politique. Parce que ça veut dire que nous sommes à l'écoute d'une société. Une société, elle bouge, elle évolue. Et donc, nous, hommes et femmes politiques, nous devons porter les débats qui existent dans la société. Et c'est bien que nous les portions et que nous les portions au Parlement.
Vous dites que la société évolue. Par exemple, sur un tout autre sujet qui est le non-cumul des mandats, les parlementaires du groupe Horizon vont soumettre un débat aujourd'hui pour un assouplissement de ces règles de non-cumul. Il y a quelques jours, Carl Olive qui était ici, il dit il faut revenir sur cette interdiction parce qu'il défend l'idée que le parlementaire et le maire, il est proche du terrain et qu'il doit être ancré et connecté. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Non, c'est une erreur.
Mais comment pourquoi vous pensez cela ? Est-ce que cette double casquette ne permet pas au contraire un ancrage territorial ?
Je pense que c'est une erreur de revenir sur le non-cumul des mandats. Ça ne permet pas plus un ancrage territorial. Vous savez, moi je suis ancrée sur mon territoire parce que j'exerce pleinement mon mandat de députée. J'ai une permanence, je reçois des citoyens, je rencontre...
Vous pensez que c'est passéiste ?
Je les rencontre tous les jours. C'est regarder dans le rétroviseur alors qu'il faut regarder... de l'avant.
Bon. Et donc, on n'a pas de chance d'aboutir apparemment.
Écoutez, en tout cas, moi j'y suis extrêmement défavorable.
Encore une question sur l'agenda parlementaire avant de conclure. Le Premier ministre a fini par donner cet agenda alors qu'il y avait beaucoup d'hystérisation des parlementaires. Il y aura donc un projet de loi sur la fin de vie, Madame la Présidente, un autre sur la souveraineté agricole. Mais plus globalement, j'ai noté que l'exécutif allait privilégier la voie réglementaire. On oublie le Parlement ?
On n'oublie pas le Parlement, on sait que le Parlement est très actif et de toute façon, vous savez très bien que le Parlement, c'est la maison du peuple, c'est là où sont les représentants du peuple. Nous sommes là pour légiférer, mais pas seulement. Nous contrôlons l'action du gouvernement, nous évaluons les politiques publiques, donc nous sommes pleinement à la tâche et il n'est pas possible, constitutionnellement et politiquement, de contourner les représentants du peuple.
À bon entendeur. Pour conclure, quelques questions rapides, si vous le permettez, et si vous pouviez répondre, quand vous le souhaitez, par oui ou par non, ou par une réponse rapide. Est-ce que vous êtes plutôt Aya Nakamura ou Michel Sardou qui annonce dans Le Parisien ce matin sa retraite ?
Alors, en chanson, pour plutôt Michel Sardou, ça ne me rajeunit pas, mais...
Vous avez le droit, on peut encore le dire. Vous savez. Comment avez-vous trouvé, si vous l'avez regardé, l'ambiance qui régnait lors de l'audition par la commission d'enquête parlementaire sur les fréquences de la TNT de Vincent Bolloré hier et plus largement de notre groupe ?
Je ne commande pas une commission d'enquête en cours, je suis présidente de l'Assemblée nationale.
Vous l'avez regardé ?
J'en ai regardé des extraits.
Qu'en avez-vous pensé ?
Je ne commande pas.
Mais vous en avez pensé quelque chose, vous avez eu un avis tranché, semble-t-il.
Je ne commande pas.
Une femme au pouvoir à l'Élysée, ce serait une bonne chose ?
Évidemment, vous savez bien...
Que ce soit la femme ?
Il faut que les femmes soit dans des fonctions de pouvoir. Moi, je suis la première présidente de l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu de présidente du Sénat, jamais de présidente de la République, jamais de présidente du Conseil constitutionnel. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 femmes qui dirigent des entreprises du CAC 40, 13 sur les 120 plus grandes entreprises françaises. On a encore, Madame Mabrouk, beaucoup de chemin à faire, beaucoup de chemin à accomplir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser la garde. Il faut se battre et il faut des femmes qui... inspire d'autres femmes, c'est ce que me disent en tout cas les jeunes filles quand elles me voient, et je pense qu'elles doivent vous dire la même chose quand elles vous voient.
Je vais conclure par, ce n'est pas une question, vous pensez à 2027 après m'avoir fait cet éloge-là. Mais pourquoi pas ?
Mais écoutez, ce qui est important,
pour
en
vous...
fait, non, je ne pense pas à 2027, je pense simplement qu'il est important que les femmes prennent toute leur place, que ce soit dans la vie politique, dans la vie associative, dans la vie économique, dans la vie médiatique. Nous sommes et nous représentons 50% de la population. Je ne crois pas que nous soyons à 50% des places, des postes à responsabilité et de pouvoir.
Eh bien, voilà une conclusion inspirante. Merci, Yael Braun-Pivet, voilà, pour votre interview. Je vous dis à très bientôt et bonne journée.
Merci à vous.
Merci, Yael Braun-Pivet. Merci, Sonia Mabrouk. Dans un instant, vos signatures Europe 1 du jeudi, à commencer par Gaspard Proust.
La météo avec Demeco. Demeco vous déménage partout où que vous soyez. Rendez-vous sur demeco.fr.
Demeco, Demeco, Demeco.
Alors Anissa Haddadi, est-ce que vous allez nous parler de la météo ? Parce qu'il y a comme un petit air de printemps ce jeudi.
Avec des nuages de ci, de là, mais rien de très inquiétant, hein, puisqu'on aura quand même en majorité du soleil aujourd'hui. C'est un jeudi printanier, la plus belle journée de la semaine qui vous attend aujourd'hui, parce que ça va nettement se dégrader demain avec beaucoup de pluie et de nombreux orages. Alors il y a un bémol aujourd'hui, c'est sur la pointe bretonne. Ce matin, on a des nuages sur le Finistère et ces nuages deviendront de plus en plus nombreux sur l'ensemble de la Bretagne. Ce qui annonce l'arrivée de la perturbation pour demain, les températures sont en hausse. 23 à Pau cet après-midi, 21 pour Brive-la-Gaillarde et Clermont-Ferrand, 19 à Lyon, Bordeaux et Toulouse, 18 degrés à Paris, Strasbourg, Metz et Nancy, 17 à Saint-Brieuc et à Rennes, 16 degrés à Cherbourg et 15 pour Nice et Montpellier.
Merci Anissa Haddadi, 8h33.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est l'heure de vos signatures Europe 1 du jeudi, le zapping politique dans un petit quart d'heure. Signé ce jour Jérôme Béglé avec Emmanuel Ducrot. On va parler de cette prime à l'amende que perçoivent les contrôleurs SNCF. Et oui, quand vous leur payez une amende, eh bien ils en perçoivent une petite fraction, ce qui peut expliquer le zèle de certains. Dans 5 minutes, la revue de presse, Olivier Delagarde. Bonjour Olivier.
Bonjour mon cher Dimitri.
Dans les journaux ce matin, dites-nous.
On va parler de l'affaire Sciences Po qui est en train de devenir une affaire d'État.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord, Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard.
Bonjour, bonjour. Et alors bravo. Hein. Mais alors bravo, bravo, bravo.
Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes énervé.
J'en peux plus. Ça fait une semaine que tout le monde, hein, que ce soit ici ou sur les chaînes info, est en boucle sur Aya Nakamura. Résultat des courses, c'est... T'arrives dans la rédac d'Europe le matin, qu'est-ce que t'entends de la machine à café au studio en passant par le mec qui livre les capsules à café ? Dja, dja. Il faut que les auditeurs le sachent. Hein. De Pascal Pro à Anissa en passant par Mabrouk, Pavlenko, je parle même pas de la régie des stagiaires. Je crois qu'Aya, là, elle peut nous dire merci. Hein, parce que niveau téléchargement, ça doit faire chauffer son compte en banque comme jamais. Hein.
Mais comment vous expliquez ça, Gaspard ?
Bah, c'est la force du refrain, c'est la force du couplet, vous savez. Oui. Et ça n'a pas besoin d'être de très haut vol pour que les oreilles s'en souviennent et que les gens se mettent à siffloter le machin. Hein.
Avant, vous croyez que c'est tout aussi simple que ça ?
Ah bah, je peux vous faire la démo en direct. Tiens, vous savez quoi ? Je vais vous mettre, à vous et aux auditeurs, un truc dans l'oreille pour toute la journée.
Allez.
Chers auditeurs, monte le son de ton autoradio, écoute bien, tu vas me maudire toute la journée. On est prêts ? Allez, feu ! Destinés, nous étions tous les deux destinés. En japonais maintenant, konnichiwa, sashimi tamago miso soup. Bon, c'est dans la boîte. Non mais Dimitri, vous voyez, c'est tout con, hein, faut pas se leurrer. C'est là-dessus que des groupes totalement surcotés comme les Beatles ont construit leur carrière.
Les Beatles surcotés, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre, non mais.
Ah parce que je vous rappelle Yellow Submarine. Oui, avec ce sourire niais là de Paul McCartney, sa coupe au bol sur cette insupportable tronche de boy scout ravi de la crèche. Franchement, entre lui et Zelensky, je sais pas lequel des deux je peux plus envie de baffer. Entre oui, un livre et l'autre.
Vous êtes dur quand même. Hein.
Non, ça c'était vers 5h30.
Chaque fois je me fais avoir.
Et puis pardon Dimitri, un peu de devoir de mémoire. Je rappelle quand même que durant tout l'été 2011, il y a des gens qui ont été très à l'aise pour se trémousser là-dessus. C'est ça. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à un moment, il faut que les médias se rendent compte de la pub qu'ils sont en train de faire à Aya Nakamura.
Ouais, vous êtes gonflé, vous, parce que vous nous en parlez quand même depuis 2 jours.
En effet.
Mais en fait, si j'en parle ce matin, c'est parce que vous me connaissez. Moi, je suis pas du genre à lancer des polémiques.
Non.
Et peut-être avez-vous l'impression que j'aime pas trop l'œuvre d'Aya.
Bah, vous me laissez quand même un peu entendre, non ?
Je crois que j'ai été mal compris.
On vous a mal compris.
Parce que je suis allé réécouter les œuvres d'Aya et je me suis trompé.
Alors.
C'est une musique beaucoup plus complexe qu'on ne le croit.
Ah oui, expliquez-nous.
Vous savez, Dimitri, le propre des musiques complexes est de ne jamais se livrer entièrement à la première écoute. Mmh. Et Dja, après l'avoir écouté 50 fois, j'ai toujours rien compris. Ce qui me laisse à supposer que ça doit être très profond. De vous à moi, je commence à avoir l'intuition profonde que Aya Nakamura, en fait, c'est une sorte de Pierre Boulez qui fait bouger du boule. Vous voyez, après le marteau sans maître, le gloss sans bonnet œuf.
Vous êtes sérieux là ?
Oui, oui, je vous assure. Ça a l'air simple et enfantin de prime abord, mais au fond, c'est aride, c'est profond, c'est minéral. Tel le souffle du vent qui ferait chanter les violons et qui emporterait au loin le grain de sable qui resterait dans l'œil du zébu contemplant mélancoliquement une mare vide. Franchement, j'ai réécouté et non seulement ça me fait reconsidérer le génie d'Aya, mais en plus, ça me fait relativiser celui d'Edith Piaf.
Mais maintenant, vous allez nous dire qu'Edith Piaf, c'est moins génial qu'Aya Nakamura.
Ça me semble évident. Pardon, mais il suffit d'écouter avec attention les textes d'Edith Piaf pour se rendre compte à quel point c'est pauvre. Le ciel bleu peut s'effondrer, la terre s'écrouler, peu importe si tu aimes, je me fous du monde entier. On comprend tout. Où est la surprise?
Oui, c'est vrai.
Où est, comme dirait Marc Menant, le pétillement d'essence?
Oui.
Et je parle même pas de la chanson de la foule, là, qui est quand même une apologie à l'accordéon des embouteillages aux heures de pointe sur le quai de la ligne 13. Pardon, on reproche à Aya Nakamura d'utiliser un mot sur cinq en français. Faudrait plutôt s'inquiéter le fait que chez Edith Piaf, c'est 100% des mots qui sont en français.
Mais pourquoi?
Attends, si on ajoute à ça qu'elle était amoureuse de Marcel Cerdan, un boxeur, donc un viriliste, manquerait plus qu'on apprenne qu'elle n'ait pas voté pour Mitterrand en 81, on va commencer à se demander s'il n'était pas d'extrême droite, le moineau de la butte Montmartre.
Gaspard, Edith Piaf nous a quittés en 1963.
Ah ouais.
Ouais.
Malin. Elle avait vu venir le truc.
Vous délirez complètement. Bon, à votre avis, Gaspard, Dja, ça veut dire quoi, Dja?
Ça veut dire quoi, Dja? Il y a deux solutions. Soit Dja, ben, c'est de l'arabe. Dja, c'est le poulet. Donc ce qui donnerait... Au poulet, il n'y a pas moyen poulet, je suis pas tacatin poulet genre. Donc derrière, ce que les gens prennent pour de l'abscon verbiage, c'est peut-être tout simplement un très subtil manifeste contre l'élevage du poulet en batterie. Et deuxième solution, peut-être que Aya est fan du Tour de France.
Pourquoi ça, fan du Tour de France?
Peut-être que Jaja, c'est tout simplement référence à Laurent Jalabert.
Ah mais oui, bien sûr. Bah
oui, du coup, le couplet, ça donne Jalabert, il n'y a pas moyen Jalabert, je suis pas tacatin Jalabert, je renchaîne à vélo, tu dettes ça, Jalabert. Et là, ça commence à sentir l'amour sauvage sur les pentes du Galibier, je vous dis.
Ouais.
Bref, j'ai fini. Bon week-end.
Bah écoutez, merci
Gaspard.
Et
n'oublions pas que...
Cher pays de mon enfant.
On va finir comme ça à chaque fois, finalement.
Je sais pas, j'hésite.
Bon, j'ai un scoop pour vous, Dja, ça veut dire menteur. Voilà.
Bah c'était évident, du verbe Dja-iser, monter.
Mentirer.
Je judge, tu judge,
nous judgeons.
Double judge, mais bien sûr.
Allez, il y en a un qui ne judge pas, il est avec
ça
nous.
Ça finira dans le Robert dans 10 ans,
vous verrez. Oui, vous avez forcément raison. Merci Gaspard Proust. Allez,
cette année, les nouveaux mots qui sont entrés, un esprit d'ouverture.
Mais ça n'arrête plus,
l'enfant. On va rester avec nous, le week-end commence. Oui, mais restez encore un petit peu.
Allez, revue
la
presse.
Revue de presse d'Olivier Delagarde, dans un instant sur
Europe 1. Que disent nos collègues?
Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Europe 1 est partenaire de Cannes Série, le festival international des séries qui aura lieu du 5 au 10 avril et vous pouvez voter pour votre série préférée.
Oui, pour voter c'est simple, il vous suffit d'aller sur europe1.fr dans la liste des séries. Alors il y en a plusieurs, la liste est longue, mais il y a par exemple Escort Boy que vous avez vu sur Prime Video, D'argent et de sang, la série Canal+, ou encore Tapis sur Netflix. Vous pouvez aussi tenter en votant de gagner vos places pour deux, hébergement et transport compris, pour assister à la cérémonie d'ouverture de Cannes Série. Plus d'infos, vote et jeu sur europe1.fr. Il est 8h42.
Conto, le compte pro qui simplifie toutes vos finances, vous présente la revue de presse.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par le scandale Sciences Po Paris.
Le poisson pourri par la tête, c'est paraît-il ce qu'a balancé Gabriel Attal au conseil d'administration de Sciences Po, où il a déboulé hier, parce que l'épisode de la conférence pro-palestinienne organisée dans l'école est en train de devenir une affaire d'État, affirme Le Parisien, qui lui consacre son plus gros titre. C'était mardi matin, rappelle-t-il, une étudiante a été empêchée d'accéder à cette AG au prétexte qu'elle était juive. Et en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a tapé du poing sur la table. La ministre de l'Enseignement supérieur a été envoyée sur place et Gabriel Attal, ancien de Sciences Po, s'est même invité donc au conseil d'administration. Alors, pointé du doigt, ces militants d'extrême-gauche qui, keffiés sur la tête, avaient investi le grand amphi de l'école, mais c'est aussi la direction de l'établissement, véritable canard sans tête, qui est sous le feu des critiques. Parce que cerise sur le gâteau, Mathias Vichra, le directeur, empêtré dans une affaire de violence conjugale, annonçait de son côté sa démission. Mais qui donc gouverne Sciences Po, s'interroge Cécile Cornudet, l'éditorialiste des Échos, qui s'étonne du communiqué lunaire pondu après l'incident par la direction. En fait, répond-elle, l'institution est totalement sous l'emprise des radicaux woke qui imposent leurs lois, qui font annuler des conférences, des boulonnes, des statuts. Et depuis le 7 octobre, ce courant a pris un visage que l'on connaît trop bien, poursuit-elle, celui de l'antisémitisme. Et si vous en doutez, lisez dans le Figaro la tribune de Nathalie Hennisch. Cette sociologue, qui se présente elle-même comme une universitaire de gauche, tire la sonnette d'alarme. Il est temps d'agir contre le wokisme dans l'enseignement supérieur, affirme-t-elle, et de dénoncer cette gauche radicalisée, imbibée de néo-féminisme agressif, de cancel culture qui hurle au loup de droite, voire d'extrême droite, dès qu'une vérité est énoncée sur la réalité de ce qu'ils sont, écrit-elle. Quand donc les présidents d'université auront le courage d'interdire le détournement de ces biens publics que sont les amphis au profit de meetings politiques? Quand se décideront-ils à exclure les étudiants qui se placent en dehors des lois? Voilà ce que dit cette universitaire de gauche dans le Figaro.
Le Figaro qui consacre son plus gros titre à un anniversaire.
Les 20 ans de la loi laïcité interdisant le port de tenues ou de signes religieux dans les écoles. Loi adoptée après une décennie de débats houleux, rappelle le journal. Loi née de l'affaire de Creil où trois collégiennes musulmanes avaient refusé de retirer leur voile. À l'époque, la gauche était contre, rappelle le Figaro. Presque tous les syndicats d'enseignants, la FCPE, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, s'étaient positionnés contre. Mais les Français, eux, la plébiscitent. Selon un sondage Odoxa Backbone, ils sont 82% à y être favorables. Ils n'étaient que 57% il y a 20 ans. Nos compatriotes y sont d'autant plus attachés qu'ils sentent bien qu'elle est menacée. En fait, la laïcité, qui était une évidence républicaine jusqu'à une date très récente, ne l'est plus, estime Delphine Girard, agrégée de lettres. Elle est, selon elle, contestée de manière organisée et vindicative par le réseau frériste, les influenceurs ou ceux qui tiennent les quartiers.
Alors, toute autre chose à présent avec ces articles de Kamel Daoud dans Le Point.
C'est sur le site internet de l'hebdomadaire que vous lirez ça, des chroniques qu'on aimerait que lisent ces féministes woke de Sciences Po, adeptes du kéfier et qui considèrent le Hamas comme un gentil mouvement de résistance. Depuis quelques semaines, c'est l'événement médiatique dans le monde arabe, mais curieusement, la presse française n'en parle pas. Il s'agit des témoignages des membres de la famille de feu Aboubakar al-Baghdadi, le calife de Daesh, des témoignages qui lèvent une part du voile sur ce qu'a été la monstruosité de l'homme et de son système politique. Lisez les récits de sa fille, ses femmes, ses anciens esclaves sexuels qui racontent la médiocrité et les perversions de cet homme qui a à son actif la mort de 33 000 personnes. Bon, mais je vais quand même pas vous laisser dessus.
C'est gentil.
On a beaucoup parlé d'école dans cette revue de presse. Alors écoutez.
Je veux que mes enfants s'instruisent à mon école, s'ils ressemblent à quelqu'un.
Et si je vous fais entendre notre Michel National, c'est que ce sera l'événement le week-end prochain, les deux derniers concerts de Sardou avant sa retraite. Et cette fois, c'est sûr, explique-t-il aux Parisiens, parce que le coup des adieux, vous nous l'avez déjà fait une fois, lui rappelle Éric Bureau. Ouais, mais j'ai 77 ans, rappelle-t-il. Quand je sors après deux heures de scène, je suis cuit. Bon, mais tout cuit qu'il est, il n'en demeure pas moins saignant. Question du Parisien sur Aya Nakamura, qui pourrait chanter Piaf pour l'ouverture des JO. C'est qui Aya Nakamura, répond-il. Mettez-vous une chose dans la tronche, s'énerve Sardou. Je n'écoute plus rien, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Les télécrochets, les mecs masqués qui chantent habillés en langouste, The Voice, je m'en tape. Bon, on va lui souhaiter un bon concert et bon courage à son épouse qui va devoir gérer Sardou à la maison.
Alors, c'est pas les deux derniers concerts ce week-end, puisqu'en fait, il en a deux de retard, je précise pour les fans, à Clermont-Ferrand puis Brest. Le dernier, c'est Brest, c'est le 29 mars. Mais voilà, pour être précis. Merci Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1, chaque matin 8h40.
C'était la revue de presse avec Conto, un compte pro et des outils adaptés aux PME pour la gestion des dépenses, la facturation et la comptabilité. Conto, c'est le compte pro qu'il vous faut.
Eh oui, Michel Sardou, le parrain de Pascal Pro.
Exactement, je l'ai appelé hier après-midi,
bon,
d'ailleurs.
Comment va-t-il?
Il venait faire ses répétitions à l'Arena. Il me l'a dit, pour la première fois de ma vie, j'ai peur. C'est une salle de 25 000 personnes avec une salle, avec une scène qui sera au centre, visiblement,
ah
et qu'il
oui.
était en train de tester. Sa femme était en train était dans le sud de la France parce qu'il quitte la Normandie pour le sud de la France. Anne-Marie Perrier est aujourd'hui là-bas.
Il a tout vendu,
dit-il. Il est effectivement en pleine forme. Et vous avez raison de dire, en fait, c'est les deux derniers concerts Covid.
C'est ça, exactement.
Deux derniers Covid qui avaient été annulés. Et effectivement, les gens n'ont pas voulu se faire rembourser. Ouais. Parce qu'il aurait peut-être préféré terminer à Paris. Voilà. Il m'a dit, moi, je ne peux pas laisser ces gens-là.
Et qui paye ses dettes s'enrichit, donc il fait les deux derniers concerts
qu'il devait
à son public.
Oui, mais c'est très beau aussi. Il a dit, je ne peux pas laisser ces gens-là. Ouais, ouais. Ils n'ont pas voulu, je ne peux pas les laisser, quoi. C'est mon public. Et je trouve que c'est vraiment bien de sa part de terminer alors à Brest ou à Clermont-Ferrand, je ne sais pas, les 29 et 30.
C'est ça. 11h-13h, Pascal Pro, vous, on parle de quoi avec les auditeurs aujourd'hui?
On va parler quand même. L'affaire Sciences Po, je trouve que c'est un cas d'école. Mmh. Parce qu'entre hier et aujourd'hui, ce n'est pas la même couleur, ce n'est pas la même tonalité. Hier, on était dans le déni avec une ministre de l'enseignement supérieur qui avait quasiment pas réagi. Et parce qu'il y a médiatisation de tous, Gabriel Attal...
Et puis il y a Macron qui a tapé du poing sur la table.
Vous appelez ça taper du poing sur la table?
Il a évoqué le sujet en Conseil des ministres.
Il a juste dit que c'était inqualifiable les propos, et c'est tellement inqualifiable qu'il ne les a pas qualifiés.
Oui, effectivement. Oui.
Donc c'est ça, moi, qui me frappe. Il a dit que c'est des propos intolérables et inqualifiables. Ah, mais d'accord, mais...
C'est une façon de les qualifier.
Bon, vous trouvez?
Moi, j'aurais aimé qu'ils disent.
Ce sont des propos antisémites. Oui. Parce qu'en fait, j'en ai marre d'entendre intolérable, inqualifiable, inadmissible, tous ces mots-là. Il faut mal nommer les choses, disait Monsieur Camus. C'est ajouté au malheur du monde.
Absolument. Allez, vous réagissez, chers auditeurs.
Olivier Delagarde, 01 80 20 39 21. En plus, un numéro non surtaxé, donc vous pouvez appeler à partir de 11h. Oui.
Voilà, et puis on vous retrouve, Pascal, dans 10 minutes sur Europe 1, lors des pros, sur Europe 1 CNews.
Toute la journée.
Plein de fois.
Bon, ça va? On vous laisse.
Allez-y, faites la matinale, je vous en prie. Non, je vais relire ma Paris Match.
On va écouter Emmanuel Ducrot qui est avec nous aussi. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Nous parler de ces contrôleurs SNCF incités financièrement
à coller. De la
RATP. RATP, pardon. SNCF aussi, non?
Oui, mais là on parle de la RATP. Excusez-moi.
Donc incités à coller des amendes aux voyageurs dans les transports en commun. C'est une histoire que racontaient nos confrères du Parisien.
Oui, le Parisien qui sort sur une série de mésaventures racontées ces dernières semaines par des clients de la SNCF, effectivement verbalisés pour des questions foutraques. Et le journal s'est donc intéressé au cas de la RATP qui gère les transports de l'agglomération parisienne et il est tombé sur une information édifiante. Les 400 à 600 contrôleurs du réseau sont financièrement incités à verbaliser les clients et mieux à les faire payer sur place. L'équivalent de 10% du montant de ces prunes réglées sur le champ leur reviennent.
C'est vrai que c'est incitatif ces 10% là, qu'on récupère dans sa poche. Là.
Ben oui, il y a un contrôleur anonyme raconte, on peut faire 15 à 30 infractions par jour, 20 à 40% payées sur place. L'amende pour un titre de transport non validé, par exemple un abonnement, c'est 35 euros tout de suite, 65 euros après 20 jours. Bon moyen pour mettre la pression aux voyageurs qui se font attraper. Ce que ça rapporte, c'est difficile de le savoir. On peut faire une moyenne seulement, admet le journal. C'est variable selon les lignes, les modes de transport, les périodes de l'année. Pour les contrôleurs de bus et de tram, par exemple, la prime peut être de 1200 euros par an. Mais elle contient d'autres éléments de performance.
Ah, la prime à l'acte, donc. Alors, ça n'incite pas exactement au dialogue, à la mansuétude ou tout simplement à la bonne foi face à des usagers qui sont parfois perdus dans la jungle des tarifs et puis même tout simplement du règlement des transports en commun.
Le Parisien raconte des infortunes emblématiques entre mauvais traitement et agressivité des contrôleurs. Le désarroi, par exemple, d'un voyageur lyonnais tombé dans le célèbre guet-apens de la défense. Selon qu'on y arrive en métro ou en RER, le prix du billet n'est pas le même. Le touriste a bien essayé de régulariser sa situation quand il s'est rendu compte de son erreur. Les contrôleurs auxquels il s'est adressé n'ont rien voulu savoir. Ça lui a coûté 35 euros tout de suite. Et une fois qu'il a payé, bien impossible de faire valoir ses droits.
Mais est-ce que c'est une bonne technique managériale d'inciter comme ça ces contrôleurs à la sanction?
Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que la lutte contre la fraude est une nécessité. La RESCI coûte bonbon à la RATP. 171 millions d'euros par an, 475 autobus en équivalent. Le problème, c'est que le système de lutte par l'appât de la prime n'incite pas les agents à la pédagogie, à la prévention. Au contraire, c'est synonyme de perte de revenus pour eux quand on est en règle. Leur intérêt et celui de l'entreprise ne coïncident pas. Si la RATP veut lutter contre la fraude, qu'elle simplifie les tarifs et aussi l'acte d'achat. Dans de nombreuses villes européennes, à Rome par exemple, on paye avec sa carte bancaire au tourniquet et une fois que c'est fait, on est systématiquement en règle. À Paris, quand on est un touriste, on n'est jamais sûr de rien. On est un gibier potentiel pour un contrôleur qui veut arrondir ses fins de mois. Forcément, ça déraille.
Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. 8h52.
7h, 9h.
Europe 1 Matin.
Et voici le trafic politique Europe 1 signé Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La campagne pour les élections européennes bat son plein. Tout le monde assiste à l'irrésistible progression du Rassemblement National, mais personne ne semble capable de l'endiguer. Donc chacun rejette la faute sur le voisin. Écoutez Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. Sur LCI, il ne voit qu'un seul et unique responsable à cette ascension.
Monsieur Macron aura été, après François Mitterrand, le principal bienfaiteur du Rassemblement National en parlant de lui matin, midi et soir. Pourquoi ? Parce qu'il veut absolument cliver. Il espère que la montée du Rassemblement National créera une bipolarisation, un réflexe de survie du camp de la raison autour de la liste Renaissance.
Pour reprendre un peu de hauteur, partons humer l'air du plateau, c'est-à-dire le fauteuil du président du Sénat. Gérard Larcher rendait hier un hommage à l'amiral Philippe de Gaulle, résistant, fils du fondateur de la Ve République et longtemps, très longtemps, sénateur.
C'est lui qui porte alors de reddition aux Allemands retranchés à l'Assemblée nationale. Son père lui dira après la guerre, et je cite, « Tu es mon premier compagnon, mais je ne peux pas te décerner une décoration de l'ordre que j'ai créée. »
L'amiral portait cette blessure discrète mais profonde. Vivre à l'ombre d'un grand homme impose quelques injustices dont on peine à se remettre. Philippe de Gaulle fut le premier résistant à s'enrôler dans le sillage du général son père. Et pourtant, celui-ci ne l'a jamais reconnu comme tel, comme le racontait Catherine Ney sur Europe 1.
Quand on est le fils de De Gaulle, c'est pas facile. Alors il vouait à son père évidemment un culte ébloui, mais harassé et un peu frustré. Parce qu'il avait été le fils de De Gaulle, il n'a pas été compagnon de la Libération alors qu'il était arrivé le premier. Et d'ailleurs, s'il avait été compagnon de la Libération, comme le dernier aurait été enterré dans la crypte, c'est lui qui aurait dû être au Mont-Valérien, voyez.
Une blessure moins discrète enflamme la classe politique. Un amphi de Sciences Po a été transformé en arène politique. On y a défendu le Hamas et on a interdit l'accès à une étudiante dont le nom pouvait faire penser qu'elle était juive. Et cela, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux Européennes, ne peut pas le laisser passer. Il était hier soir l'invité de Quotidien sur TMC.
Il faut quand même que tout le monde mesure que ce qui se passe est extrêmement grave. Le fait qu'on puisse demander à des gens leur nom et filtrer l'accès à un amphi de Sciences Po en écoutant leur nom, et qu'on puisse interdire à des étudiants de rentrer dans leur amphi parce qu'ils sont de confession juive, c'est fondamental que ce soit dit, parce que sinon on va s'habituer. Et vous avez aujourd'hui malheureusement une force politique en France qui a décidé de capitaliser sur l'antisémitisme.
On termine avec Rachida Dati qui auditionnait au Sénat et devant les caméras du Public Sénat a pris avec un courage et un panache, comme Gaspard Proust, la défense d'Aya Nakamura, victime d'insultes racistes et au seul prétexte qu'elle pourrait interpréter Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Écoutez, c'est simple, mais bon, c'est efficace.
Attention au prétexte pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme, c'est tout. C'est pas trop facile. Enfin, moi, la facilité, je ne l'ai jamais connue, je ne la connaîtrai pas encore. Je vous dis simplement que s'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est, c'est absolument pas acceptable. Parce que là, c'est pas un choix, c'est un délit.
Voilà, Rachida Dati, donc, pour conclure ce zapping politique. Merci beaucoup, Jérôme Béglé.
Merci, Begley. Dimitri.
Allez, dans une demi-heure sur Europe 1, Culture Média, les invités ce jour, Anissa Dadi.
Faustine Bollard pour son émission. Ça commence aujourd'hui avec la 1000e prévue sur France 2, demain vendredi. Et Kali qui sort un nouvel album, 20 ans d'amour parfait, ses plus grands titres. L'album sort demain et il sera tout à l'heure en live dans Culture Média.
Et c'est à 9h30 et juste après l'heure des pros sur Europe 1 dans un instant. Bonne journée.